Volume 5, les œuvres de George Fox, livre Doctrinosi, suit une distinction entre la Nouvelle Alliance et l'Ancienne et comment, dans l'Ancienne Alliance, les lèvres des prêtres des Juifs devaient conserver la connaissance du peuple juif. Mais dans la Nouvelle et Éternelle Alliance, Christ, le souverain sacrificateur, est le trésor de la sagesse, de la connaissance, et il remplit la terre de la connaissance du Seigneur Dieu. Et la terre étant pleine de la connaissance du Seigneur Dieu, alors il n'en manque pas sur la terre. Et Christ, le souverain sacrificateur, non seulement remplit la terre de la connaissance du Seigneur Dieu, mais il couvre la terre de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent la mer, ainsi la terre ne sera pas visible. On peut donc voir que la substance dans la Nouvelle Alliance est de beaucoup supérieure à la figure dans l'Ancienne Alliance. Lisez, écoutez, percevez et comprenez, recevez et possédez. Par G. F. Il est écrit dans les prophéties d'Ésaïe que, parlant du royaume paisible de Christ qui devait venir, il a dit « Ils ne feront point de mal ni de destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera pleine de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent la mer. » Ésaïe 11:9. C'était donc une prophétie de ce jour à venir, ce n'était pas du temps d'Ésaïe. Astérisque, il est clair que sa montagne sainte est le mont Sion dans la Nouvelle Jérusalem, dans la dimension du royaume des cieux. Mais remarquez, en ce jour-là, quand la terre sera pleine de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent la mer. En ce jour-là, il y aura une racine d'Isaïe, qui se dressera comme une bannière pour les peuples, vers elle, à savoir, cette bannière les nations se tourneront, et son repos sera glorieux. Or beaucoup des nations ont trouvé ce repos glorieux et cette bannière, et c'est vers cette bannière que les peuples se rassemblent, et ils ne peuvent l'abandonner, et tous les guerriers du monde ne peuvent abattre cette bannière, ni l'arracher au peuple avec leurs armes charnelles. Or voici le jour de Christ dans sa nouvelle alliance de lumière, de vie et de grâce, dans laquelle la terre sera pleine de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent la mer. Remarquez, la terre sera pleine de la connaissance du Seigneur. La terre n'est donc pas vide lorsqu'elle est pleine de la connaissance du Seigneur. Et la connaissance du Seigneur couvrira la terre, non seulement elle en sera pleine, mais elle couvrira la terre, de sorte que la terre ne sera pas visible. Astérisque, comme les eaux couvrent la mer, de sorte que lorsque vous êtes dans la mer, vous ne voyez aucune terre, ainsi en sera-t-il de la connaissance du Seigneur dans la Nouvelle Alliance. Astérisque, la terre n'est pas visible parce que ceux qui sont dans le royaume des cieux marchent à la lumière du Seigneur, bien plus éclatante, par laquelle l'homme voit avec les yeux de Dieu, depuis la dimension supérieure du royaume des cieux. Car le Seigneur a dit, « J'écrirai mes lois dans leur cœur, et je les mettrai dans leurs pensées, de sorte qu'ils n'auront pas besoin de se dire les uns aux autres, « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront du plus grand au plus petit, et ils n'auront pas besoin que chacun enseigne son prochain en disant, « Connais le Seigneur. » Remarquez, s'il n'est pas besoin de dire l'un à l'autre, ou à son prochain, « Connais le Seigneur, car la terre sera pleine de la connaissance du Seigneur. » Et la connaissance du Seigneur couvrira la terre comme les eaux couvrent la mer, dans la nouvelle alliance de lumière, de vie, de grâce, de sorte que la terre ne peut être vue, alors il n'y a pas besoin que les lèvres des prêtres ou des docteurs conservent la connaissance du peuple, car cela n'avait cours que dans l'ancienne alliance sous Moïse, et tant qu'on le lisait, le peuple était sous le voile. Et par conséquent, Christ a aboli le premier sacerdoce avec son voile, celui qui avait les dîmes pour son travail et son service, dont les lèvres devaient conserver la connaissance du peuple, c'était le peuple des Juifs, cette nation particulière. Mais Christ, dans la Nouvelle Alliance, est le trésor de la sagesse et de la connaissance, de sorte qu'en ce jour de Christ, la racine d'Isaïe se dressera comme une bannière pour les peuples, et les nations la chercheront, à savoir les peuples, que beaucoup ont trouvé. Et Dieu a donné Christ comme une nouvelle alliance aux Juifs, non conforme à l'ancienne, et comme une alliance de lumière pour éclairer aussi les nations, lui qui est le salut de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, afin qu'en ce jour de Christ et du salut, lui qui est un souverain sacrificateur, saint et sans malice, séparé des pécheurs, élevé au-dessus des cieux, lui qui est le trésor de la sagesse, de la connaissance, il ôte le voile de Moïse, et enlève le voile et le couvert qui ont été étendus sur toutes les nations. Ainsi c'est Christ qui remplit la terre de connaissance, et la connaissance du Seigneur couvrira la terre, comme les eaux couvrent la mer, de sorte que, dans cette connaissance, connaître Dieu et Jésus-Christ qui l'a envoyé, c'est la vie éternelle. Ainsi ce souverain sacrificateur, Christ Jésus, a une œuvre qui dépasse celle des souverains sacrificateurs des Juifs, dont les lèvres devaient conserver la connaissance de la nation juive, car Christ, le trésor de la sagesse et de la connaissance, remplit la terre entière de connaissance, et couvre la terre de la connaissance de Dieu, comme les eaux couvrent la mer, en son jour de la Nouvelle Alliance. Ne sont-ce pas là les jours de la Nouvelle Alliance et de l'Évangile, qui n'est pas conforme à l'ancienne? Alors que feront, en ces jours, tous vos prêtres formés dans des écoles et des collèges et vos évêques avec toutes vos grâces, évêchés et cures, lorsque les gens n'auront plus besoin que vous leur enseigniez la connaissance du Seigneur, et lorsque le peuple n'aura plus besoin d'envoyer ses enfants dans des écoles et des collèges, pour y apprendre les arts et la manière d'enseigner aux gens la connaissance du Seigneur, quand la terre sera pleine de la connaissance du Seigneur et en sera couverte, comme les eaux couvrent la mer, au jour de cette nouvelle alliance. Il n'y aura donc plus besoin de vos enseignements. Et si vous veniez à recevoir ce jour en votre temps, n'abandonneriez-vous pas vos grâces prébendes et cures, ne rendriez-vous pas au peuple ses dîmes, et ne confesseriez-vous pas que Christ, qui est le trésor de la sagesse, de la connaissance dans la nouvelle alliance, a dit « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, et ce commandement du Seigneur des Seigneurs ne doit pas être transgressé », et ne diriez-vous pas « Il n'y a pas dans la nouvelle alliance besoin d'enseigner aux gens à connaître le Seigneur, non, pas du plus petit au plus grand. Car Dieu a écrit sa loi dans leur cœur et l'a mise dans leurs pensées, au jour de cette nouvelle alliance, et ils sont le peuple de Dieu, et il est leur Dieu, et tous le connaissent du plus grand au plus petit. Ainsi cette nouvelle alliance n'est pas conforme à l'ancienne alliance des Juifs, au sein de cette nation particulière, qui avait une tribu de prêtres et de lévites, dont les « lèvres » devaient conserver la connaissance du peuple, pourquoi ils avaient leur dîme. Mais Christ vient dans sa nouvelle alliance, et il a ôté la première alliance et l'a abolie, et a annulé le commandement qui lui donnait ses dîmes, et il établit la seconde alliance éternelle où tous seront enseignés de Dieu, et il a dit à ceux qui déclaraient cette nouvelle alliance et prêchaient son évangile, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, et ils devaient aller l'annoncer sans bourse ni bâton. » Ainsi, dans la nouvelle alliance, ils n'avaient besoin ni de bourse, ni d'argent, ni de sac, ni de bâton, car ceux qui prêchaient l'évangile vivaient de l'évangile. Ainsi l'évangile de vie et de salut est une bonne nouvelle et une heureuse annonce, prêchée ayant toute créature sous le ciel, et la grâce de Dieu, qui apporte le salut, est apparue à tous les hommes pour les instruire, et Christ éclaire tout homme venant au monde par la vie qui est en lui, la parole par laquelle toutes choses ont été faites, afin qu'ils croient et qu'il leur donne la connaissance. Ainsi ce souverain, sacrificateur est celui qui remplit et couvre la terre de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent la mer, de sorte que la terre ne sera pas vue, et ainsi il y donne et conserve la connaissance du peuple. Et en ces jours de Christ, dans sa nouvelle alliance, Dieu répand son esprit sur toute chair pour les instruire, les enseigner et les conduire, par lequel esprit les filles et les filles peuvent prophétiser, les vieillards peuvent avoir des songes, les jeunes gens, les servantes et les serviteurs peuvent avoir des visions, par l'esprit que Dieu a répandu sur eux et leur a donné une connaissance spirituelle. Et cet esprit leur révèle les choses de Dieu et les conduit dans toute la vérité. Car dans l'ancienne alliance, le Seigneur répandit son esprit sur la maison d'Israël, et leur donna de son bon esprit pour les instruire, quoiqu'ils s'y rebellassent. Mais dans sa nouvelle alliance, qui n'est pas conforme à l'ancienne, il répand de son esprit non seulement sur les Juifs, mais sur toute chair des autres nations, aussi bien que sur les Juifs, afin que toute chair voie la gloire de Dieu et voie son salut. Car le Seigneur a dit, en Ésaïe 49, 26, « Toute chair saura que moi, le Seigneur, je suis ton Sauveur et ton Rédempteur, le Puissant de Jacob. » Et encore, en Ésaïe 44, 5, le Seigneur a dit, « Toute vallée sera élevée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les lieux raboteux deviendront une plaine, et la gloire du Seigneur sera révélée, toute chair la verra ensemble, car la bouche du Seigneur l'a dit. » Et n'est-ce pas là le jour d'évangile de Christ dans sa nouvelle alliance ? Ne doit-il pas s'accomplir, mais vos montagnes et vos collines doivent être abaissées, et vos voies et natures tortueuses doivent être rendues droites, lisses et planes, avant que cette gloire du Seigneur soit révélée et que toute chair vienne la voir. En Luc 3, 6, il est dit lorsqu'il parle de l'accomplissement d'Ésaïe 40, que toute chair verra le salut de Dieu. Encore, Ésaïe 66, 23, le Seigneur a dit, « Toute chair viendra se prosterner devant moi », et en Ésaïe 66, 18, 19, le Seigneur a dit, Il arrivera que je rassemblerai toutes les nations et toutes les langues, et elles viendront et verront ma gloire, et j'établirai parmi elles un signe parlant de Christ. Et le Seigneur a dit, le désert de son peuple sera comme Éden, et sa solitude comme le jardin du Seigneur. Ésaïe 51, 3. Et ne sont-ce pas là les jours de la nouvelle alliance, et cela ne doit-il pas s'accomplir? George Fox Wasmont, 4 mois, 1679. L'homme Christ Jésus, la tête de l'Église, et vrai médiateur, en opposition aux chefs papistes, leur pape, prière aux morts et pour les morts, leur tête rasée, les reliques des saints et le purgatoire, réfuté comme n'étant ni chrétien ni judaïque, et par conséquent païen par le témoignage de l'Écriture, par G. F. Car il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus. Intime 2, 5. Où donc a-t-on jamais vu quelqu'un, ou est-il prouvé que, soit dans l'ancien monde avant le déluge, soit depuis le déluge jusqu'à la sortie d'Égypte des enfants d'Israël, soit depuis leur sortie d'Égypte jusqu'à Christ, puis depuis Christ jusqu'à tous les jours des apôtres prier les morts, ou prier des saints et des anges, comme dans cette nuit d'apostasie depuis les jours des apôtres, comme le font les apostats du christianisme appelés papistes. Ou a-t-on jamais vu quelqu'un aller aux tombes chercher des ossements de mort, ou des reliques dites saintes, dans tous les âges susmentionnés, et dire qu'il y avait en elles une vertu pour opérer des miracles, comme les papistes disent l'avoir fait dans l'apostasie depuis les jours des apôtres. Et où donc a-t-on jamais vu quelqu'un, soit dans l'Ancien Monde, soit depuis, au jour des prophètes et des apôtres, prier quelque saint que ce soit, ou faire d'un saint un médiateur à l'exception de Christ Jésus, comme le font les papistes dans l'apostasie. Car le Seigneur ne dit-il pas dans sa loi, « Quiconque touche le corps mort d'un homme mort, et ne se purifie pas, et souille le tabernacle du Seigneur, cette âme sera retranchée d'Israël, parce que l'eau de séparation n'a pas été répandue sur lui. Et si un homme meurt dans une tente, tout ce qui entrera dans la tente et tout ce qui sera dans la tente sera impur pendant 7 jours, oui, tout vase découvert qui n'aura pas de couvercle sera impur, non 19, 11, 18, et quiconque touchera un mort tué par l'épée dans les champs, ou un os d'homme, ou une tombe, sera impur 7 jours. Et l'eau de purification devait venir sur eux, or 7 est un nombre parfait. Ainsi, la perfection devait venir sur eux avant qu'ils soient rendus de nouveau purs. Après que les enfants d'Israël eurent combattu les Madianites, Moïse leur dit, « Demeurez hors du camp 7 jours, et quiconque a touché quelque mort, ils doivent se purifier et purifier leurs vêtements, comme en ont 31, 19, 24. Oui, tout leur or et leur argent, l'airain, le fer, l'étain et le plomb, qu'ils avaient pris aux païens impurs, ils devaient le faire passer par le feu, et alors ce serait pur. » Et cela devait être purifié par l'eau de séparation, car ceux qui ne pouvaient supporter de passer par le feu devaient passer par l'eau. Et le Seigneur dit, « Vous laverez vos vêtements, et après 7 jours vous serez purs, puis vous entrerez dans le camp du Seigneur. Or, si la guerre, dans l'ancienne alliance, devait être si sainte et si pure, et que tout le peuple devait être si saint et si pur, qu'en est-il de la guerre spirituelle dans la nouvelle alliance ? La perfection ne doit-elle pas venir sur chacun, avant qu'il puisse être pur pour entrer dans le camp de Dieu ? Leurs vêtements intérieurs ne doivent-ils pas être lavés, comme ils lavaient les extérieurs? Ne doivent-ils pas passer par le feu de son baptême et par l'eau sainte de sa parole, avant de pouvoir entrer dans le camp de Dieu et à son tabernacle? Car le 7e jour était, dans l'ancienne alliance, un jour de lavage et de purification, oui, de lui-même et de ses vêtements. Et s'il ne se lavait pas, lui et ses vêtements, s'il avait touché une tombe, ou l'os d'un mort, ou s'il avait été dans une tente où gisait un mort, ou s'il avait été à la guerre où il y avait des morts, s'il ne se purifiait pas, il devait être retranché de l'assemblée parce qu'il avait souillé le tabernacle du Seigneur et que l'eau de séparation n'avait pas été répandue sur lui. Et par conséquent, s'il devait être si pur et si saint dans l'ancienne alliance, avec ses lavages extérieurs, à plus forte raison doivent-ils être purs dans la nouvelle alliance, avec les lavages célestes, avec l'eau sainte de la parole. Et s'ils ne sont pas lavés par cette eau de la parole et par le sang de Jésus, ne sont-ils pas retranchés de la sainte et pure assemblée et du tabernacle de Dieu spirituellement dans la nouvelle alliance ? Car Dieu a placé son tabernacle extérieur dans son assemblée, dans l'ancienne alliance. Lév 26, 11. Mais Dieu établit le tabernacle céleste au milieu de son assemblée sainte et pure, dans la nouvelle alliance, qu'il a rassemblée par son esprit. Ainsi tous ceux qui courent maintenant aux tombes chercher des os de mort, et les appellent des reliques, et prétendent faire des miracles par elles, ne sont-ils pas au-dessous de la loi de Dieu dans l'ancienne alliance, et des profanateurs de ce tabernacle, et retranchés de l'assemblée de l'ancienne alliance. Et alors, ne sont-ils pas à plus forte raison encore plus éloignés de l'assemblée de la nouvelle alliance, bien qu'en paroles ils puissent la professer? Et le Seigneur a dit, « Tout lépreux et quiconque influe ou est souillé par un mort, homme ou femme, sera mis hors de son camp, afin qu'il ne souille pas son camp, non 5 1 3, comme Myriam fut mise dehors 7 jours pour sa lèpre et sa désobéissance. Car dit le Seigneur, j'habiterai au milieu de vous. » Voyez donc quelle vigilance quant à la sainteté et à la pureté devait régner dans le camp de l'ancienne alliance, à plus forte raison dans la nouvelle, à l'égard des lèpres et des flux intérieurs. Ceux qui sont souillés par Adam mort doivent être purifiés par l'eau de la parole et le sang de Jésus, le second Adam, avant de pouvoir entrer dans son saint camp. Et ceux qui ont été dans la guerre spirituelle, avec les méchancetés spirituelles, s'ils ont touché le mort, ou son os, ou sa tombe, ils sont souillés jusqu'à ce qu'ils soient purifiés par l'eau de la parole vivante, qui existait avant que le mort fût, ou son os, ou sa tombe, car le Seigneur a dit, « Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous recevrai. » 2 Cors 6, 17. David a dit, « Les cieux sont au Seigneur, mais la terre, il l'a donnée au fil des hommes. Les morts ne louent pas le Seigneur, ni aucun de ceux qui descendent dans le silence. » Psa 115, 16, 17. Alors pourquoi quelqu'un demanderait-il conseil aux morts et prierait-il les morts s'il ne loue pas le Seigneur? Encore, David a dit, les morts étendus dans la tombe, Dieu ne s'en souvient plus, ils sont retranchés de sa main. Psa 88, 5. Par conséquent, comment les morts peuvent-ils être médiateurs? Ceux qui courent aux tombes pour des ossements de mort et les appellent de saintes reliques ne sont-ils pas morts dans leurs péchés et leurs offenses? Et encore, David a dit, ceux qui s'attachent à Baal-Peor mangent les sacrifices des morts, et les morts ne louent pas le Seigneur. 106-28. Ainsi, vous pouvez voir ici que ceux qui s'étaient attachés à Baal-Peor ne s'étaient pas attachés au Seigneur, ne lui sacrifiaient pas, ils étaient morts loin du Seigneur et mangeaient les sacrifices des morts. Et tous ceux qui se professent chrétiens dans la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas comme des morts, s'ils prient les morts ou font des offrandes aux morts? Non, ne sont-ils pas pires et plus enténébrés qu'eux, puisqu'ils professent une chose plus haute et plus grande que ceux de l'Ancienne Alliance? Et David a dit, « Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » Psa 73-24. Ainsi, vous pouvez voir ici que tous doivent être conduits par le conseil de Dieu s'ils veulent être reçus dans la gloire, et non être conduits par le conseil des morts, mais par le conseil du Dieu vivant. Mais ceux qui oublient les œuvres du Seigneur n'attendent pas son conseil pour être conduits par lui. Psa 106-13. Et Ésaïe a dit, « Que le conseil du Saint d'Israël s'approche et vienne, afin que nous le connaissions. » Isa 5-19. Ainsi cela attendait le conseil de Dieu, et non celui des morts. Et les Juifs apostats du temps d'Ésaïe ne recouraient-ils pas aux devins et aux esprits familiers, qui chuchotaient et marmonnaient? Et tout cela n'était-il pas jugé par l'ancienne loi, et ne le sont-ils pas bien davantage au jour de l'Évangile, où la puissance de Dieu est manifestée? Car Ésaïe ne dit-il pas, « Quand ils vous diront, consultez ceux qui ont des esprits familiers, et les devins qui chuchotent et marmonnent, répondez-leur ainsi, y a-t-il un peuple quelque part qui ne consulte pas son Dieu? Les hommes iront-ils vers les morts en se détournant du vivant? Et il dit encore, à la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est qu'il n'y a en eux ni lumière ni aurore. Isa 8-20. Or l'on voit ici qu'il y en avait qui enseignaient cette doctrine de recourir aux devins et aux esprits familiers. Et le prophète trouvait donc étrange que des vivants aillent chercher auprès des morts. Et par conséquent, cela était dans les ténèbres et n'avait pas d'aurore en eux, s'étant éloigné à la fois de la loi et du témoignage. Dieu n'a-t-il pas donné Christ comme conseiller? Et tous ne doivent-ils pas lui demander conseil, et ainsi non à quelques saints morts? Et le Seigneur a dit, « Son peuple demandait conseil à ses morceaux de bois, et son bâton lui répondait, « Il brûle de l'encens sur les collines, sous les chênes, et sacrifie avec des prostituées, l'esprit de prostitution les a fait errer. » Et c'était lorsqu'ils s'étaient prostitués loin de Dieu dans l'Ancienne Alliance, et c'était des gens qui s'étaient éloignés du conseil du Seigneur et de la véritable intelligence, c'est pourquoi le Seigneur dit qu'ils tomberaient. Osée 4-12-14. Et l'esprit de prostitution ne les a-t-il pas fait errer, eux qui demandent conseil à des morceaux de bois peints et à des images? Et qui prient devant des tableaux et des images de mort, ceux qui font cela maintenant ne connaissent pas les pensées du Seigneur, et ne comprennent pas son conseil, pas plus que les Juifs apostats autrefois. Christ a conseillé les Laodicéens disant, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » Apoc 3-18. Par conséquent, tous doivent recevoir et demander le conseil de Christ pour cet or. Paul dit à l'Église qu'il leur avait annoncé tout le conseil de Dieu, Actes 20-27. Et jamais l'apôtre, dans tout le conseil de Dieu qu'il avait annoncé, n'a dit que c'était le conseil de Dieu qu'il dresse des images, ou prie des saints, ou aille aux tombes des saints pour leurs os, ou établisse quelques saints comme médiateurs après sa mort, ou qu'il dresse des croix devant lesquelles ils doivent se courber, ou devant les images des saints, ou prier les morts, ou que les prêtres ou ministres de Christ se rasent la tête. Il n'a annoncé aucun conseil de ce genre venant de Dieu dans toutes ses épîtres et ses prédications. En Gère 49-20, il les exhortait à écouter le conseil du Seigneur, et le Seigneur dit « Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions mais non de moi, qui se couvrent d'un voile mais non de mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché. » Isa 30-31. Ainsi ce sont des enfants rebelles, qui ne prennent pas conseil du Seigneur et ne se couvrent pas de son esprit, ceux-là descendent en Égypte pour y chercher la force et non vers le Seigneur. Et c'est pourquoi un malheur est prononcé contre eux dans l'Ancienne Alliance, et bien davantage dans la Nouvelle Alliance, eux qui ne prennent pas conseil de Christ que Dieu a donné comme conseiller, le Prince de Paix. Isa 9-6. Mais il y avait, dans l'Ancienne Alliance, des gens qui la professaient sans y vivre, et il y a de même aujourd'hui des gens qui professent la Nouvelle Alliance, et pourtant n'y vivent pas, qui méprisent le conseil de Dieu et de Christ, et ne veulent aucune de ces réprimandes, Proverbes 30. Car le Seigneur a dit, ils n'ont voulu qu'aucun de mes conseils, ils ont méprisé toutes mes réprimandes. Et ce sont ceux qui haïssent la connaissance et ne choisissent pas la crainte du Seigneur, c'est pourquoi ils mangeront le fruit de leur voie et seront rassasiés de leur propre dessein, et non du trésor de la vie. Et Judas, lorsqu'ils demeurèrent dans la crainte du Seigneur, se rassemblèrent pour demander conseil au Seigneur au jour de Josaphat, et le Seigneur fut leur conseiller. 2 Chron 24. Ainsi, ils n'allèrent pas demander conseil à la sorcière pour faire remonter le Samuel mort, comme Saül le fit, lorsqu'il avait désobéi au Seigneur. Ainsi Saül, qui avait désobéi et était allé vers la sorcière pour demander conseil aux morts et non au Seigneur, n'eut pas la victoire, mais ceux qui demandèrent conseil au Seigneur eurent la victoire. Vous pouvez voir qu'ils demandaient conseil au Seigneur pour savoir si leur voie serait prospère ou non. Juges 20, 23-46. Ils n'allèrent donc pas demander conseil aux morts. Christ a dit, « Tout ce que vous demanderez en priant, si vous croyez, vous le recevrez, mais ils doivent le demander à Dieu par lui. » Matt 21, 22. Christ a dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils, et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean 14, 13. Ainsi, il est clair ici que tous les vrais chrétiens doivent demander au nom de Christ, et il l'a enseigné et y a exhorté, et non au nom d'aucun saint ni d'aucun ange. Christ exhorte encore, disant, « Demandez, et l'on vous donnera, et quiconque demande reçoit. » Matt 7, 7, 8. Et la foi de Marthe était si ferme qu'elle dit qu'elle savait que tout ce que Christ demanderait à Dieu, il le lui donnerait. Jean 11, 22. Ainsi, vous pouvez voir ici que Christ était le conseiller, au nom duquel on devait demander dans la Nouvelle Alliance. Et dans l'Ancienne Alliance, le peuple de Dieu avait interdiction d'user d'enchantement ou d'observer des temps, on lui interdisait d'avoir égard aux devins ou de rechercher des esprits familiers, « Car je suis le Seigneur votre Dieu, et c'est vers lui qu'il devait se tourner, dit le Seigneur. » Et de même, dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur interdit à son peuple de se faire des incisions dans la chair, ou des empreintes ou des marques pour les morts. Lévitique 19, 28, « Car il devait être un peuple saint dans l'Ancienne Alliance et à plus forte raison dans la Nouvelle. » Et le Seigneur a dit, « Vous ne vous ferez pas de calvitie sur la tête, et vous ne vous ferez pas d'incision dans la chair. » Or le Seigneur interdisait à son peuple de faire ces choses dans l'Ancienne Alliance, et à plus forte raison dans la Nouvelle. Ainsi vous tous qui vous rasez la tête, la rendez chauve, et vous faites des entailles dans la chair avec des fouets ou autrement, n'êtes-vous pas jugés par la loi de Dieu comme étant en dehors de la pratique de l'Ancienne Alliance ? Vous êtes donc en deçà de la Nouvelle, dans la pratique des païens, et non dans la pratique de l'Ancienne Alliance ni de la Nouvelle. Objection. Et maintenant, si quelqu'un de vous objecte que Paul s'est rasé la tête après être devenu chrétien, acte 21 en réponse. La cause de cet acte fut la suivante. Il courait parmi les Juifs un bruit selon lequel il enseignait contre la loi de Moïse et était contre la circoncision, et c'est pourquoi Jacques et les anciens conseillèrent Paul, lui disant « Purifie-toi et rase-toi la tête, ainsi que les autres qui étaient avec lui, afin qu'il paraisse marcher avec ordre selon la loi de Moïse », et ils lui demandèrent de faire cela pour qu'il puisse dire « Voici quatre hommes qui ont fait un vœu ». Et Paul fit ainsi, avec ceux qui étaient avec lui. Et ceux qui étaient avec lui entrèrent dans le temple pour signifier l'accomplissement des jours de purification, jusqu'à ce qu'une offrande soit offerte pour chacun d'eux. Et alors l'apôtre, se tenant au milieu d'eux, plaidant sa cause lorsqu'il offrait une offrande pour lui, contre quoi il dit qu'il n'avait rien, si ce n'est ce vœu unique, au sujet de la résurrection des morts, au sujet de laquelle, dit l'apôtre, c'est pour cela que vous me mettez en question aujourd'hui. Acte 24, 21. Ainsi, bien que l'apôtre ait condescendu aux Juifs à se raser la tête et à se purifier, Acte 21, 24, non 6, 13, 18. Pourtant, lorsqu'ils vinrent offrir une offrande pour lui, il fut amené à fouler aux pieds tout ce qu'il avait fait en cela et à prêcher Christ, la résurrection, lui qui fut l'offrande une fois pour toutes. Et le fait d'avoir ainsi cédé à leur faiblesse fut le moyen de le faire emprisonner, et il faillit même être tué par ses persécuteurs, les Juifs, et ainsi il fut ballotté de lieu en lieu jusqu'à ce qu'il soit amené prisonnier à Rome. Mais le commandement du Seigneur était qu'il ne se rase pas la tête, mais seulement qu'il la taille, et il y a donc un commandement explicite de Dieu contre le rasage de la tête. Ésée 44, 20. Or, le rasage de la tête de Paul sous un vœu était conforme au rasage des Nazaréens sous un vœu. Acte 18, 18. Car durant tous les jours de leur séparation, aucun rasoir ne devait passer sur leur tête, ils ne devaient pas non plus s'approcher d'aucun cadavre, non pas même de leur père ou mère, sœur ou frère. Car la consécration de son Dieu était sur sa tête et si quelqu'un mourait subitement près de lui, il souillait sa tête consacrée, et alors il devait se raser la tête le septième jour de sa purification. Et encore, non 6, 18, le Nazaréen se rasera la tête à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation, et il prendra les cheveux de sa tête, de sa séparation, et les mettra au feu qui est sous le sacrifice de son offrande de paix. Ainsi, telle était la loi de Dieu pour les Nazaréens, qui étaient sous un vœu de se raser la tête. Autrement, selon la loi de Dieu, les prêtres ne devaient pas se raser la tête, comme on peut le voir en Ésée 44. Ainsi, pour les prêtres, se raser la tête n'est ni un commandement de l'Évangile, ni une loi de Dieu, sauf pour ceux qui étaient sous un vœu, comme il a été dit. Mais tous les prêtres, et autres qui se rasent aujourd'hui la tête le font-ils comme sous le vœu des Nazaréens ? Ne s'approchent-ils d'aucun mort, fût-ce un proche parent, lorsqu'ils se rasent la tête, le font-ils à l'entrée du tabernacle de l'Assemblée, le lieu du rasage, et brûlent-ils leurs cheveux sous le sacrifice de l'offrande de paix? Et si c'est le cas, ne nient-ils pas Christ venu en chair, lui qui s'est offert lui-même une fois pour toutes, et qui purifie par son sang et lave par l'eau de sa parole, par quoi ils doivent être purifiés avant de pouvoir entrer dans son tabernacle et son assemblée? Ainsi, le rasage de la tête pour les prêtres et les autres, et le fait de rendre la tête chauve, étaient interdits par la loi de Dieu, sauf pour ceux qui étaient sous le vœu susmentionné et les Nazaréens. Et lorsqu'ils se rasaient la tête pour leur séparation, ils devaient la brûler sous le sacrifice de l'offrande de paix, comme il a été dit. Et ce rasage des Nazaréens et de ceux qui étaient sous ce vœu devait se faire à l'entrée du tabernacle de l'Assemblée, et non dans une maison privée. Telle était donc la raison du rasage de la tête, autrement, la loi de Dieu s'y opposait, et par elle les prêtres ne devaient pas se raser la tête. Ésée 44:20. Commentaire. Beaucoup pensent que la Bible n'est pas digne de confiance parce qu'elle a pu être corrompue par des erreurs de traduction, ou même falsifiée délibérément pour soutenir les pouvoirs religieux qui contrôlaient à l'époque. Mais comme cette lettre le montre, la secte romaine ne s'est pas donné la peine de changer quoi que ce soit qui contredisait ses doctrines, elle l'a simplement ignoré. Se courber et prier devant des statues, prier des morts comme médiateurs auprès de Dieu, les têtes rasées, les reliques provenant de morts, et l'interdiction du mariage et de la viande le vendredi, tout cela entre en conflit avec les commandements de la Bible. Et les catholiques romains n'ont été que les premiers. Les protestants, eux aussi, ignorent simplement toutes les exclusions, les exigences et les conditions restrictives spécifiées dans les Écritures. La doctrine de Martin Luther de la sainteté instantanée et du salut par la croyance et la grâce instantanée a été formulée par lui en invalidant délibérément les livres des Hébreux, de Jacques, de Jude, de l'Apocalypse et d'Esther, parce qu'ils entraient en conflit avec son salut instantané, théorie qui a été universellement adoptée par la chrétienté protestante. Le pire, chez les protestants comme chez les catholiques, fut le fait de tuer et de torturer ceux qui avaient une opinion religieuse différente. La réponse de Christ à ses disciples, lorsqu'il voulait punir les gens qui ne voulaient pas l'écouter, les réprimandant sévèrement, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes comme celui du diable. » Jésus dit encore que si quelqu'un viole les normes de l'Église pêche, il doit d'abord être averti par une personne, puis averti par deux ou trois, puis repris par tout le corps des croyants. Et s'il ne se repent pas de son erreur, il doit être expulsé et évité, non tué, ni emprisonné, ni torturé, ni dépouillé de ses biens. Nous sommes censés aimer et prier pour nos ennemis, non les détruire. Pourtant, comme prophétisé dans la Bible, la chrétienté a tué et torturé au fil des siècles. Je vis la femme, la fausse église, ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Apoc 17, si les inquisitions de la secte romaine demeurent le plus grand acte de brutalité de l'histoire commis au nom de la religion. Mais tout cela était prédit dans le livre de l'Apocalypse, la prostituée était ivre du sang des saints, les inquisitions et massacres de la secte romaine eurent lieu dans toute l'Europe durant le Moyen Âge 800 âpre, J.C., à 1500 âpre, J.C., au cours duquel 9 millions d'âmes furent mises à mort, accusées de sorcellerie. Les méthodes et le nombre de mises à mort et de tortures de la secte romaine font passer les nazis du XXe siècle pour des amateurs. Ceux qui étaient assez intelligents pour voir la barbarie et la fausseté de la religion romaine mouraient rapidement sous la torture. Les piliers encore encensés de la foi romaine, Augustin et Thomas, ont approuvé et soutenu de tels meurtres par écrit, sans jamais les renier, ils demeurent un témoignage de la dépravation persistante de la secte catholique romaine. Marchant dans les pas de leur mère meurtrière, les protestants aussi ont tué et assassiné à travers l'Europe. John Calvin fut un des premiers fondateurs protestants, vénéré par les presbytériens, les congrégationalistes, les baptistes et influençant même les luthériens. Calvin participa au bûcher de Michael Seftus ainsi qu'à celui de 34 femmes. Le fondateur de la secte épiscopale Henri Villy fit tuer 72 000 personnes, principalement des catholiques romains. La guerre des paysans en Allemagne, menée par des despotes religieux inspirés par Luther, tua 100 000 membres de la noblesse et des catholiques romains. Entre 1650 et 1700, les épiscopaliens, presbytériens, baptistes et congrégationalistes d'Angleterre et d'Amérique emprisonnèrent plus de 10 000 Quakers et tuèrent plus de 869 Quakers, dont trois hommes Quakers et une femme pendue à Boston par les puritains qui croyaient à la Bible. La bête reçut le pouvoir de vaincre les saints. La fausse église, la prostituée de Babylone, était ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Martin Luther a aussi préparé le terrain à la persécution nazie des Juifs. Luther préconisait d'incendier les synagogues juives, de détruire les livres de prière juifs, d'interdire aux rabbins de prêcher, de saisir les biens et l'argent des Juifs, de saccager leurs maisons, et de faire en sorte que ces vers venimeux empoisonnés soient forcés au travail ou expulsés pour toujours. Il semblait également cautionner leur meurtre, écrivant « Nous avons tort de ne pas les tuer ». Les premiers Quakers, 1648-1730, furent les premiers, après la mort de l'Église primitive en 388 âpre. J.C. a de nouveau embrassé toutes les Écritures et à recevoir les promesses d'être délivré du péché, de purification, de perfection, de pureté, de sainteté, d'union avec Dieu et d'entrer dans le royaume des cieux dès cette vie. Et le Seigneur ordonna à Moïse de prendre les Lévites du milieu des enfants d'Israël et de les purifier, et ils devaient raser leur chair et laver leurs vêtements. Et lorsqu'ils furent purifiés, ils offrirent un jeune taureau en offrande de gâteau et un autre taureau en sacrifice pour le péché. Puis Aaron présenta les Lévites devant le Seigneur comme une offrande pour les enfants d'Israël, afin qu'ils accomplissent le service du Seigneur. Ainsi vous pouvez voir ici que tous les Lévites devaient être lavés et purifiés, et qu'ils devaient offrir pour eux-mêmes avant de pouvoir être offerts au Seigneur, et alors ils pouvaient offrir pour le peuple des offrandes pures. Ainsi ils n'étaient pas aptes au service du Seigneur tant qu'ils n'étaient pas purifiés. NB 8:6. Et ainsi les Lévites furent séparés des enfants d'Israël, et le Seigneur dit, « Ils sont à moi ». Et maintenant, ce sacerdoce lévitique étant changé, et la loi aussi par laquelle il avait été établi, avec tous ses services, ses rasages, ses lavages et ses aspersions, et le commandement abrogé qui lui donnait ses dîmes par Jésus-Christ, ainsi le sacerdoce lévitique ne doit pas être suivi par les vrais chrétiens, mais il faut suivre Christ qui n'est pas venu selon l'ordre d'Aaron mais de la tribu de Juda, et qui doit être suivi et écouté en toutes choses. Or, se rendre chauve sur la tête était pour certains un jugement comme vous pouvez le voir en Michée 1:16. Car le Seigneur dit, « Je changerai vos fêtes en deuil, et vos chants en lamentation, je mettrai le sac sur vos reins, et la calvitie sur chaque tête. » Amos 8:10. Ainsi la calvitie était le jugement que le Seigneur fit venir sur eux. Et ils jetteront de la poussière sur leur tête, et se rouleront dans la cendre, et ils se rendront entièrement chauves. Ésaïe 27:30-31, 7:17-18. Toutes les mains seront faibles, et tous les genoux seront faibles comme l'eau, ils se ceindront de sac, l'effroi les couvrira, la honte sera sur tous les visages, et la calvitie sur toute leur tête. Dans Jer 48-37, toute tête sera chauve, toute barbe sera coupée, sur toutes les mains il y aura des incisions, et sur tous les reins le sac. Ainsi ici, leur calvitie était un jugement sur eux, il y avait une si grande lamentation. Dans Isaïe 22, 12, en ce jour-là, le Seigneur des armées appela aux pleurs, au deuil, à la calvitie et à se ceindre d'un sac. Encore, dans Isaïe 15, 2, la misère n'était-elle pas la cause de leur calvitie? Dans Isaïe 3, 24, après avoir énuméré les vanités des enfants d'Israël et les avoir repris, il leur dit qu'au lieu de cheveux bien arrangés, ils auront la calvitie, et au lieu d'un corsage, une ceinture de sac, etc. Dans Job 1, 20, lorsqu'il était dans ses épreuves, ses souffrances et sa misère, il déchira son manteau et se rasa la tête, etc. Ainsi cette manière de se raser la tête était parfois un jugement, et parfois liée aux épreuves et aux troubles. Il y eut aussi un autre cas et exemple du rasage de la tête des femmes. Lorsqu'une jeune femme qui n'était pas des Juifs était prise captive, si un homme devait l'épouser, elle devait se raser la tête et se couper les ongles, etc. Et quitter ses vêtements de captive, et pleurer son père et sa mère pendant un mois entier, et alors un Juif, dans l'ancienne alliance, pouvait l'épouser. 2 Corinthiens 21:12-13. Or, concernant la loi de purification des lépreux, ceux qui devaient être purifiés devaient laver leurs vêtements, raser tous leurs cheveux et se laver dans l'eau, Lev 14, 8-11. Le septième jour, il rasera tous les cheveux de sa tête, sa barbe et ses sourcils, il rasera tous ses cheveux, il lavera ses vêtements, lavera sa chair dans l'eau, et il sera pur. Et le huitième jour, le prêtre offrira pour lui deux agneaux sans défaut. Ainsi, vous pouvez voir ici le fondement du rasage de la tête des lépreux, etc., dans l'ancienne alliance, mais vous pouvez voir par la loi de Dieu qu'ils ne devaient pas se rendre chauves sur leur tête, Lev 21, 5, disant expressément, « Vous ne vous rendrez pas chauves sur vos têtes, ni ne ferez d'incision dans votre chair. » Et dans Ésaïe 44, 20, il est dit que les prêtres ne devaient pas se raser la tête. Ainsi il y avait un commandement explicite de Dieu contre le rasage de la tête des prêtres, bien que, dans certains cas, comme il a été dit plus haut, on ait eu recours au rasage dans l'ancienne alliance. Mais où donc Christ, qui envoya les apôtres, a-t-il jamais donné un commandement qu'ils se rasent la tête? Où donc les apôtres, après Christ, ont-ils jamais donné un tel commandement dans l'Église? Voyons un ordre en ce sens venant de Christ et de ses apôtres, vous qui invoquez le rasage de la tête du prêtre comme une antiquité, et l'on verra alors combien votre pratique du rasage de la tête est loin de remonter jusqu'au jour des apôtres. Concernant le fait de demander conseil aux morts, ils ne devaient pas se rendre chauves à cause des morts, ni se souiller avec les morts. Lev 21, 1. Il était expressément interdit aux fils d'Aaron, ils ne feront pas de calvitie sur leur tête, comme il a été dit, Lev 21, 5. Car tout ce qu'ils touchaient, étant impur, ils devaient se laver et se purifier. Et le Seigneur dit, « Vous êtes les enfants du Seigneur votre Dieu, vous ne vous ferez pas d'incision, et vous ne vous rendrez pas chauves entre les yeux à cause des morts, car tu es un peuple saint pour le Seigneur ton Dieu, car je t'ai choisi pour être un peuple particulier au Seigneur ton Dieu, au-dessus de toutes les nations qui sont sur la terre. 2 Corinthiens 1:2. Le souverain sacrificateur ne devait aller vers aucun cadavre pour se souiller, ni vers son père ni vers sa mère, et il ne devait pas découvrir sa tête ni déchirer ses vêtements. Lev 21:10-11. Et d'une manière générale, dans toutes les Écritures, on peut voir que les gens devaient prier le Seigneur, et non quelques saints, car il leur fut commandé de prier le Seigneur pour la paix de la ville. Jer 29:7. Et dans Job 33:26, il est dit « Priez le Seigneur ». Et l'on pourrait apporter une multitude d'écritures, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, montrant que les gens devaient prier le Seigneur et écouter sa voix, et nulle part dans toutes les Écritures, on ne peut trouver qu'il leur ait été demandé de prier quelqu'un d'autre que Dieu et Christ, au seul nom desquels, quoi que son peuple demandât, cela devait lui être accordé. Dans Pro 21, 16, vous pouvez voir qu'il y avait des assemblées des morts, car, dit-il, l'homme qui s'égare hors du chemin de l'intelligence demeurera dans l'assemblée des morts. Et ceux qui demeurent dans l'assemblée des morts se sont égarés, tant hors du chemin de l'ancienne alliance que du chemin de la nouvelle alliance, et loin de la lumière et de l'Esprit de Christ, qui donne la connaissance et l'intelligence de Christ, leur chemin vers Dieu. Et ces assemblées des morts ne peuvent offrir qu'un sacrifice non salé et insipide aux morts. Et dans Ézéchiel 5, 6, il est dit, « Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et ils n'ont plus de récompense, car leur mémoire est oubliée. Aussi, leur amour, leur haine et leur envie ont maintenant péri, et ils n'ont plus jamais de part dans tout ce qui se fait sous le soleil. Alors, à quoi servent vos prières aux morts, s'ils ne savent rien et n'ont plus jamais de part en quoi que ce soit qui se fasse sous le soleil? L'ange n'a-t-il pas dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ainsi, on ne doit pas chercher le vivant parmi les morts. » L'ange n'a-t-il pas dit, « Il est ressuscité à ceux qui cherchaient ainsi Christ? » Luc 24, 5, 6. Et Christ est le juge des vivants et des morts, lui qui a dit, « Venez à moi, afin que vous ayez la vie. » Ainsi, on ne doit pas chercher vers les morts, mais vers Christ qui est vivant et vit au siècle des siècles. 2 Tim 4, 1 Apoc 1-18. Et le Seigneur ne dit-il pas, « Tournez-vous vers moi, vous tous, extrémités de la terre, et soyez sauvés. » Ainsi, on ne doit pas alors regarder vers les morts pour être sauvés, mais vers Christ. Et nul ne vient au Fils si le Père ne l'attire. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et vous pouvez voir comment les Juifs, après s'être détournés de l'alliance de Dieu et avoir désobéi à ses commandements, firent alors une alliance avec la mort et un pacte avec l'enfer, comme les chrétiens apostats, qui sont sortis de la nouvelle alliance de lumière, de vie et de grâce. Et alors, comme les Juifs qui abandonnèrent l'ancienne alliance, ils font du mensonge leur refuge et se cachent sous la fausseté, concluant des pactes avec le pape et ses substituts, pour le pardon de leurs péchés passés, présents et à venir, cherchant ainsi à rendre nul le pardon et la remise accordée par Christ. Mais votre alliance avec la mort sera annulée, et votre pacte avec l'enfer ne tiendra pas. Lorsque le fléau débordant passera, vous serez alors foulés par lui, comme l'étaient autrefois les Juifs rebelles. Et ceux qui ont fait une alliance avec la mort et un pacte avec l'enfer, au temps de la nouvelle alliance ou de l'ancienne, ne peuvent offrir et sacrifier rien d'autre que ce qu'ils tirent de l'enfer et de la mort à ceux avec quoi ils ont fait alliance. Et tous les enchanteurs, sorciers et charmeurs ne sont-ils pas interdits par l'ancienne alliance? Et les astrologues, les observateurs des étoiles et les pronostiqueurs mensuels n'étaient-ils pas comptés parmi eux? Voyez Isaïe 47, 12-13, où le Seigneur dit, « Tu t'es lassé de la multitude de tes conseils. » Que les astrologues et les observateurs des étoiles, les pronostiqueurs mensuels, se lèvent maintenant et te sauvent de ce qui va venir sur toi. Voici, ils seront comme du chaume, le feu les brûlera, ils ne se délivreront pas de la puissance de la flamme. C'est pourquoi le peuple de Dieu ne doit pas se fier à de telles choses, ni suivre de telles choses au temps de l'ancienne alliance ni de la nouvelle. Et que pouvaient faire tous les sorciers d'Égypte ou de Babylone pour le rêve de Pharaon ou de Nebuchadnetsar? Dieu n'a-t-il pas réduit à néant tous leurs conseils? C'est pourquoi tous les astrologues, sorciers, enchanteurs et witches furent interdits en tout temps, comme on peut le voir dans les Écritures, ainsi que les faiseurs d'images et d'idoles, ou de la ressemblance de quoi que ce soit au ciel ou sur la terre. Toutes ces choses sont interdites par le Seigneur Dieu, les faire, les servir, s'incliner devant elles ou les adorer, car c'étaient les pratiques des païens et non celles du peuple de Dieu, ni dans l'ancienne alliance ni dans la nouvelle. Car Dieu anéantit les signes et menteurs, rend fous les devins, renverse la sagesse des sages et fait de leur science une folie. Mais Dieu confirme la parole de ses serviteurs et accomplit le conseil de ses messagers. Isaïe 44, 25-26. Et le Seigneur Dieu dit, « Vous ne pratiquerez pas l'enchantement et vous n'observerez pas les temps. » Lev 19, 26-37. « Mais vous observerez mes statuts, dit le Seigneur, car ceux qui s'attachent à de vaines vanités mensongères abandonnent leur propre miséricorde. » Jonas 2, 8. Et l'apôtre interdit l'observation des jours, des mois et des temps, Galates 4, 11, et dit qu'il craignait pour eux, de peur d'avoir travaillé en vain auprès d'eux. Et Christ dit aux Juifs qui observaient ces choses, Luc 17, 20, « Le royaume de Dieu ne vient pas avec des signes visibles ni avec des observations. Ainsi, ceux qui s'attachent à l'observation de telles choses et cherchent à trouver le royaume de Dieu, en ces choses ne peuvent le recevoir. Et vous pouvez voir que ceux qui abandonnèrent le Seigneur et observaient les temps, pratiquaient les enchantements et consultaient des esprits familiers et des magiciens, et ceux-là, à la fin, sacrifièrent leurs enfants par le feu, commirent beaucoup de méchanceté aux yeux du Seigneur et le provoquèrent à la colère. Et ils en vinrent à faire des images taillées et des idoles pour les adorer, et ils se prosternèrent devant elles, devant les dieux de leur propre fabrication, comme les païens qui avaient abandonné Dieu et son alliance. » 2 Rois 21:2-7. On ne devait trouver, parmi le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance, personne qui pratiquât la divination, ni enchanteur, ni sorcier, ni observateur des temps, ni charmeur, ni consultant des esprits familiers, ni magicien, ni nécromancien, ni quelqu'un faisant passer son fils ou sa fille par le feu, car toutes ces choses sont interdites par le Seigneur, et toutes ces choses sont une abomination pour le Seigneur, et à cause de ces abominations le Seigneur ton Dieu les a chassées de devant toi, car ces nations que tu posséderas écoute. Mais quant à toi, le Seigneur ton Dieu ne t'a pas permis d'agir ainsi, tu seras parfait avec le Seigneur ton Dieu. Car le Seigneur ton Dieu suscitera au milieu de toi un prophète, et c'est lui qu'ils écouteront, parlant de Christ dans la Nouvelle Alliance comme Moïse dans l'Ancienne. Et dans ce prophète que Dieu suscite, Jésus-Christ, il mettra ses paroles dans sa bouche, et il parlera à son peuple dans la Nouvelle Alliance tout ce que Dieu lui commande, comme Moïse le fit dans l'Ancienne, lui qui fut fidèle dans sa maison dans l'Ancienne Alliance, comme Christ est fidèle dans sa maison dans la Nouvelle, et quiconque n'écoutera pas mes paroles, dit le Seigneur. 2:18-19. Et le peuple de Dieu était interdit par le Seigneur, dans l'Ancienne Alliance, en ces termes, « Vous ne mettrez aucune marque imprimée sur vos corps, car c'était l'œuvre des païens. » Lève 19. « Et de même que le peuple du Seigneur était interdit, dans l'Ancienne Alliance, de servir l'un quelconque des dieux des nations et d'adopter leur manière de vivre, leur voie, leur culte et leur religion d'eux-mêmes, à plus forte raison, leur est-il interdit dans la Nouvelle Alliance sous Christ le grand prophète, comme vous pouvez le voir tout au long des Écritures. » Et vous pouvez voir le commandement exprès de Dieu contre les images, les ressemblances et les figures. 2:4. Le Seigneur ordonna à Moïse, dans l'Ancienne Alliance, d'enseigner aux Juifs ses statuts et ses jugements, afin qu'ils les pratiquent, et il leur dit de prendre garde à eux-mêmes, en disant, « Vous n'avez vu aucune forme, le jour où le Seigneur vous parla à Horeb du milieu du feu. Par conséquent, puisqu'il n'avait vu aucune forme ce jour-là, vous ne ferez aucune image taillée, ni la ressemblance d'aucune figure, ni l'image d'un mâle ou d'une femelle, ni la ressemblance d'aucune bête de la terre, ni la ressemblance d'aucun oiseau ailé dans l'air. » Ainsi vous pouvez voir qu'il leur était interdit de faire la ressemblance de quoi que ce soit au ciel ou sur la terre, de peur qu'à la fin ils n'en viennent à adorer l'armée des cieux. Ici vous pouvez voir qu'il ne leur était pas seulement interdit d'adorer de telles choses, mais aussi d'en faire la ressemblance par le commandement exprès de Dieu. Mais hélas! Combien les maisons de ce qu'on appelle chrétiens sont-elles remplies de ces images et ressemblances qui étaient interdites dans l'Ancienne Alliance? De sorte que, chez de tels chrétiens, cela est devenu un métier de fabriquer ces choses qui étaient interdites aux Juifs dans l'Ancienne Alliance, et qu'ils ne devraient, à plus forte raison, pas faire dans la Nouvelle. Au contraire, ils devraient appliquer leur esprit, leurs oreilles et leurs yeux à Christ, le grand prophète, et l'écouter, lui qui les renouvelle à l'image de Dieu. Or, concernant la purification, la purge et le nettoyage, si le Seigneur avait voulu un purgatoire après la mort pour y purifier les gens, ce dont l'Écriture ne parle nulle part, à quoi servaient toutes ces purifications au temps de la loi? NB 19:9, 2 Cron 30:19, Né 12:45, Lève 15:13, NB 8:21, Lève 12:4, et bien d'autres écritures pourraient être citées au sujet de la purification et du fait de purifier. Et dans Mal 3:3, il s'assiera comme purificateur et comme affineur par le feu, purifiant les fils de Lévi, et il est comme le feu de l'affineur et comme le savon du foulon. Or, ce raffinage et cette purification des gens ne doivent-ils pas avoir lieu pendant qu'ils sont sur la terre, et non lorsqu'ils sont morts et allés au purgatoire? Dieu et son peuple ne disent pas cela. Et vous qui parlez d'un purgatoire pour vous purifier et vous affiner après votre mort, n'avez-vous pas oublié toutes ces Écritures qui montrent que Christ, par lui-même, a purifié nos péchés? Hébreux 3, et lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. 1 Pierre 2:24. Remarquez, ceux qui vivaient pour la justice étaient morts au péché, ainsi l'apôtre n'enseignait pas aux gens à regarder vers un purgatoire lorsqu'ils seraient morts. Et comment peut-on dire que vous êtes morts au péché et que Christ a porté vos péchés en son corps sur le bois, alors que vous attendez un purgatoire pour y être purifié après votre mort? L'apôtre dit aux saints, pendant qu'ils étaient sur la terre, « Vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit. » 1 Pé 1:22. Ainsi ces vrais chrétiens n'ont pas besoin d'attendre un purgatoire, Et Jean dit, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, alors nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Remarquez donc, c'est lui qui purifie de tout péché, il n'avait donc pas besoin d'un purgatoire. Ceux qui ne sont pas purifiés de tout péché sont ceux qui ne marchent pas dans la lumière, comme Christ est dans la lumière, et ceux-là, dans leurs ténèbres, peuvent imaginer un purgatoire pour y être purifiés, alors que Christ est apparu pour ôter le péché par le sacrifice de lui-même. Et l'apôtre dit, « Il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela vient le jugement. » Hébreux 9, 27. Il ne dit donc pas qu'il leur est réservé un purgatoire, mais le jugement. Et l'apôtre dit dans son épître générale, aux chrétiens de son temps, « Sachant que vous n'avez pas été rachetés de votre vaine conduite par des choses corruptibles, ni par l'argent ni par l'or, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. » 1 Pé 1, 18. Considérez maintenant ceci, vous qui invoquez l'Antiquité et qui prétendez pardonner les péchés des gens, et leur donner des indulgences pour leurs péchés en échange de choses corruptibles, comme l'argent et l'or, n'avez-vous pas rendu le sang de Christ sans effet? N'avez-vous pas amené les gens à croire un mensonge, eux qui achètent vos pardons et vos indulgences pour leurs péchés? Puis vous leur parlez d'un purgatoire après leur mort, et vous les maintenez dans leur vaine conduite pendant qu'ils vivent, et ainsi vous les tenez en dehors de la foi catholique et de la vraie connaissance des vrais chrétiens des temps primitifs, qui savait qu'il n'avait pas été racheté par des choses corruptibles, comme l'argent et l'or, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Et Christ n'a-t-il pas dit aux larrons croyants, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, et vous démentirez les Écritures si vous dites que c'était un purgatoire. » Et Christ dit qu'il purifie tout sarment qui porte du fruit afin qu'il en porte davantage, et le sarment qui ne porte pas de fruit, il l'ôte, ainsi Christ est celui qui purifie. Et il dit à ses disciples qu'ils étaient purs par sa parole, donc pas par un purgatoire après leur mort, Jean 15. Et comme Jean-Baptiste déclare que Christ devait venir après lui, il dit, « Il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit, et il nettoiera entièrement l'air, brûlera la paille d'un feu inextinguible et amassera le blé dans son grenier. » Or, vous tous qui plaidez pour un purgatoire afin d'y être purgés et purifiés, ne niez-vous pas le baptême de Christ, qui doit vous purifier par son feu et par le Saint-Esprit, et purger le vieux levain du vieil Adam et du diable, entré par la transgression depuis la chute d'Adam. Car toute cette purge, cette purification, ce lavage et ce nettoyage concernent Adam et Ève, et leurs fils et filles, depuis qu'ils sont tombés de l'image de justice et de sainteté dans laquelle Dieu Tout-Puissant les avait faits. Ainsi Christ, le second Adam, qui n'est jamais tombé ni péché, qui n'avait aucune tromperie dans sa bouche, est celui qui purge et qui nettoie tout son peuple par son sang et par son baptême, et qui le circoncit par son esprit, en dépouillant le corps de mort et les péchés de la chair, qui sont montés en l'homme et la femme par la transgression, car ils n'avaient pas ce corps de mort et de péché avant la chute, lorsque Dieu Tout-Puissant les fit à son image et à sa ressemblance. Ainsi c'est le sang de Christ qui purifie la conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant, Hébreux 9, 14, donc pas de purgatoire, parce que c'est le sang de Christ qui purifie de tout péché. Mais si vous avez oublié ce purificateur, et avez donc inventé un autre, à savoir un purgatoire, vous ne devez pas en revendiquer l'Antiquité auprès des apôtres, mais plutôt auprès des fausses conceptions de vos évêques et papes apostats, et à travers votre long maintien dans votre aveuglement, vous qui avez manqué de la vraie connaissance, de la tempérance, de la patience, de la piété et de la véritable bonté fraternelle envers vos semblables, ainsi que du véritable amour que Christ a enseigné à ses disciples, aimez tous les hommes. Cet amour catholique astérisque vous a fait défaut, et c'est pourquoi vous avez massacré, tué et persécuté tant de personnes au nom de la religion, et oublié ce qui ôterait vos péchés, à savoir le sang de Christ. Et c'est pourquoi vous avez imaginé un purgatoire après la mort, et enseigné cela comme doctrine parmi les gens au lieu du sang de Jésus-Christ. Lisez 2 Pé 1, 1, 9. Venez donc à ce qui purifiera vos cœurs de votre duplicité, et suivez le conseil de l'apôtre Jacques en Jacques 4, 1, 8, afin que vos pensées soient unies à Christ. Car l'apôtre a dit, Christ qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et remarquer de toute iniquité, et de se purifier un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Astérisque catholique à l'origine, c'était un terme désignant la véritable Église chrétienne, le corps purifié de Christ, composé de pierres vivantes. Ce terme a été accaparé par la secte romaine, prétendant être la véritable Église chrétienne. L'apôtre exhorte Tite, dit et enseigne ces choses, exhorte et reprend avec toute autorité. Ainsi, il devait reprendre tous ceux qui enseignaient une doctrine contraire à cela. Donc aucune iniquité ni aucun péché d'un homme, cela est clair, ne peut être pardonné par des indulgences humaines, et aucun homme ne peut en être racheté par de l'or ou de l'argent, ou toute autre chose corruptible. Et ceux qui pensent le pouvoir établissent un autre pardonneur et un autre dispensateur de pardon que Dieu et Jésus-Christ, ce qui est un antichrist, comme vous pouvez le voir en 2 2 4, et ils doivent être repris, car le Seigneur dit « Je pardonnerai toutes leurs iniquités ». Jer 33, 8. Christ nous a lavé de nos péchés dans son propre sang, Apoc 1:5, leurs vêtements ont été blanchis dans le sang de l'agneau. Apoc 7:14, les saints ont vaincu par le sang de l'agneau. Apoc 12:11, l'apôtre dit aux Éphésiens par quoi ils avaient la rédemption, par le sang de Jésus-Christ. Ephésiens 1:7. Ne dit-il pas la même chose aux Colossiens lorsqu'il dit « En qui nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire la délivrance de l'esclavage de nos péchés » Col 1:14. Ainsi qu'on renonce à tous les pardons du pape, à la vente des pardons et au purgatoire. La vente des indulgences était si répandue dans la secte romaine que Johann Tetzel écrivit « Dès que la pièce tinte dans le coffre, l'âme du purgatoire aussi attestée comme au ciel bondit. » Ce sont les marchands de la terre de Babylone qui s'enrichissent, vendant le salut, vendant la rédemption, trafiquant des âmes. Ce fut une source majeure de sommes d'argent énormes, contribuant à ce que la secte romaine posséda 40% de toutes les propriétés en Europe au début de la Réforme. Oui, l'apôtre dit aux Éphésiens, « Vous qui autrefois étiez loin, vous avez maintenant été rapprochés par le sang de Christ. Ainsi, c'est le sang de Christ qui a rapproché les saints alors, et qui rapproche les saints de Dieu maintenant, ce sang qui rachète, lave, nettoie et purifie de tout péché. Et Christ ayant aboli dans sa chair l'inimitié, c'est-à-dire la loi des commandements contenus dans les ordonnances, et ayant ainsi renversé le mur de séparation entre juifs et gentils, pour faire de ces deux peuples un seul homme nouveau en lui-même, faisant la paix, afin de les réconcilier avec Dieu en un seul corps par le sang de sa croix, pour se réconcilier toutes choses, soit les choses dans le ciel, soit les choses sur la terre, ayant ainsi fait mourir l'inimitié. » F2 14 22. L'évangile de paix fut prêché à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient près, et Christ était le fondement sur lequel juifs et gentils devaient bâtir, il était le fondement des prophètes et des apôtres, la pierre angulaire dans la maison de Dieu. Ainsi vous pouvez voir qu'il est dit, « Lui qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ, et Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs transgressions. » 2 Cor 5 18-19. Ainsi, il est clair qu'il n'est pas question ici d'un purgatoire après la mort pour laver, purifier ou nettoyer les gens, mais que cela se fait par Jésus-Christ seul. Et tous ceux qui attendent un purgatoire après leur mort ne sont pas de cette véritable foi catholique dans laquelle étaient les apôtres et la véritable Église des temps primitifs, foi dont Jésus est l'auteur. Car ceux qui reçoivent l'aboutissement de cette foi catholique reçoivent le salut de leurs âmes. 1 Pé 1:9. Ainsi il n'y a pas de purgatoire ici, et là où l'on plaide pour un purgatoire, l'aboutissement de cette foi n'est pas reçu. La foi est la victoire sur ce qui séparait l'homme de Dieu, par cette foi, il a accès à Dieu, et par elle il plaît à Dieu. C'est la foi qui sanctifie. Actes 26-18. Ainsi ils n'ont pas besoin d'un purgatoire s'ils sont dans cette foi catholique. Et ceux qui parlent aux gens d'un purgatoire sont en dehors de la foi qui sanctifie et qui sauve. Le cœur des saints était purifié par la foi, et c'était là la doctrine que l'apôtre prêchait à l'église des chrétiens primitifs. Actes 15-9. Et ceux qui parlent aux gens d'un purgatoire pour les y purifier se sont écartés de cette foi catholique purifiante. Les justes vivront et vivent par cette foi purifiante et sanctifiante. Hébreux 4 Romains 17. Cette foi dont Christ est l'auteur et le consommateur justifia et purifia l'Église alors, et les saints maintenant, par cette foi étant justifiés, ils avaient la paix avec Dieu, cette foi catholique divine, sainte et précieuse. Ainsi ceux qui imaginent un purgatoire pour s'y purifier, et qui s'attendent à y être nettoyés, purgés ou justifiés, sont en dehors de cette foi catholique, car l'apôtre a dit, « Et étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ainsi par la foi, le peuple de Dieu se tenait ferme, il marchait par la foi et non par la vue, et il vivait par la foi du Fils de Dieu, foi dont le Fils de Dieu était l'auteur et le consommateur. Cette foi catholique, sainte, précieuse, divine, purifiante, sanctifiante, justifiante et salvatrice, par laquelle ils avaient accès à Dieu et en laquelle ils plaisaient à Dieu, par cette foi, ils avaient la victoire sur ce qui lui déplaisait. Ainsi, ils n'ont pas besoin du purgatoire imaginé par le pape. Par cette foi, Abel offrit. Par cette foi, Énoche fut enlevé. Par cette foi, Noé construisit l'arche par laquelle lui et sa famille furent sauvés. Par cette foi, Abraham quitta son pays et la religion de son pays, et suivit et obéit au Seigneur, de qui il reçut la bénédiction. Par cette foi, Moïse fut préservé, lorsqu'il fut caché 3 mois par ses parents. Par cette foi, Moïse abandonna les plaisirs de l'Égypte et refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Par cette foi, les 3 enfants furent préservés dans la fournaise ardente de Nebuchadnetsar, au milieu de la persécution. Par cette foi, Daniel fut préservé dans la fosse aux lions, et leur gueule fut fermée pour qu'il ne le dévore pas. Ainsi la foi est ce qui résiste au diable, elle est le bouclier des enfants de Dieu et l'arme des élus, élus avant le monde, et cette foi leur donne la victoire sur le monde. Ainsi, ceux qui prêchent ou croient un purgatoire se sont écartés de cette foi catholique en Christ, qui était et est le purificateur des saints. Et Jean dit à l'Église dans son épître général, 1 Jean 5, 44, « C'est ici la victoire qui triomphe du monde, votre foi. » Ainsi, s'il n'y a pas de victoire sur le monde, il n'y a pas de témoignage de cette foi. Quiconque prêche que, même si des personnes n'arrivent pas à vaincre le monde dans cette vie, elles pourront avoir un purgatoire après leur mort, s'est écarté de la foi catholique, car il n'existe que cette foi vivante, purifiante, justifiante et sainte, dont Christ est l'auteur et le consommateur. Elle est la victoire de tout le peuple élu de Dieu, avant la fondation du monde, et leur donne la victoire sur le monde. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit à l'Église dans sa première épître générale, 1 Pé 1:5, qu'ils étaient gardés par la puissance de Dieu, par la foi pour le salut. Ainsi cette foi catholique divine, sainte, purifiante et précieuse, dont Christ était et est l'auteur et le consommateur, était le gardien des saints par la puissance de Dieu, par elle ils avaient accès à Dieu et en elle ils plaisaient à Dieu, et dans cette foi catholique divine, sainte et précieuse, tous les saints ont l'unité. C'est la seule vraie foi catholique, donc pas plusieurs, F4:5. Et c'était cette unique foi pour laquelle les saints devaient combattre, comme il est dit dans Jude, et c'est cette foi que tous les élus de Dieu prêchent et présentent au monde entier, et ils doivent regarder à Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, Hébreux 12:2. Et maintenant, concernant la véritable primauté de l'Église Jésus-Christ, qui est mort pour les péchés du monde et a goûté la mort pour chaque homme, est ressuscité d'entre les morts, et s'est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté et puissance, de toute force et domination, et de tout nom qui se nomme non seulement dans ce monde, mais aussi dans celui qui est à venir. Il a mis toutes choses sous ses pieds, et s'est donné lui-même pour être le chef de toutes choses à son Église, qui est son corps, la plénitude de F1:20-23, ainsi vous pouvez voir que Christ est le chef de son Église. Christ n'a jamais établi aucun des apôtres comme chef de l'Église sur la terre, au contraire, il les appelait serviteurs et amis, et eux se nommaient apôtres et serviteurs, comme on peut le voir dans leurs épîtres. Christ leur dit, « Que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. » Ainsi vous qui établissez un homme comme pape ou chef suprême de l'Église et persécutez les autres parce qu'ils ne veulent pas croire comme vous, n'avez-vous pas été comme un corps monstrueux sans tête, jusqu'à ce que vous en fabriquiez une? Combien de fois la tête se détache-t-elle de votre corps, jusqu'à ce que vous en ayez fait une autre? Par cela, n'apparaît-il pas clairement que vous vous êtes écarté de l'unique tête véritable et éternelle, Jésus-Christ? Il est l'auteur et le consommateur de la véritable foi catholique. Il était la tête de son Église au jour des apôtres, pour les chrétiens primitifs, après avoir été crucifié et être ressuscité d'entre les morts. Ainsi il demeure la tête de tous les vrais chrétiens, lui qui était mort et qui est vivant et qui vit au siècle des siècles, qui a dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier » Apocalypse 17:18, lui qui est la tête présente de l'Église et qui était et qui vient dans des flammes de feu contre tous. L'apôtre dit aux Éphésiens que Christ est la tête de l'Église et le sauveur du corps. Et Christ aime tant son Église qu'il s'est donné pour elle. Et l'Église doit être soumise à Christ, sa tête, lui qui est mort pour elle, a versé son sang pour elle, l'a rachetée, l'a sanctifiée et l'a acquise par son sang. Il l'a purifiée et la lave par le lavage d'eau de la parole, afin de la présenter à Dieu comme une Église glorieuse, sans tache ni ride, sainte et sans défaut. Et Christ chérit et nourrit son Église d'une nourriture céleste et spirituelle, et d'une sollicitude céleste, de sorte que son Église en vient à être membre de son corps. F5. L'apôtre écrit la même chose aux Colossiens, et leur dit que par Christ toutes choses ont été créées, celles qui sont dans le ciel et sur la terre, visibles et invisibles, qu'il s'agisse de trônes, de domination, de principautés ou de puissance, toutes choses ont été créées pour lui et par lui, à savoir Christ, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature, et il est avant toute chose, et en lui toute chose subsiste, il est la tête du corps, l'Église, lui qui est le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose. Col 1:15-19. Ainsi vous pouvez voir combien clairement l'apôtre a élevé Christ au-dessus de tout et l'a établi comme tête de l'Église, et non lui-même, ni Pierre, ni aucun autre apôtre. Il avertissait et enseignait tout homme en toute sagesse, afin de présenter tout homme parfait dans Jésus-Christ. Ainsi, vous pouvez voir ici qu'il les présentait à leur tête. C'est pourquoi ils exhortaient les saints à être affermis, enracinés et édifiés en Christ, comme ils avaient été instruits, et il leur disait de prendre garde, de peur que quelqu'un ne les dépouille par la philosophie ou une vaine tromperie, selon les traditions des hommes et les rudiments du monde, et non selon Christ, car en Christ demeure la plénitude de la divinité, lui qui est la tête. Tous les saints doivent être pleinement accomplis en lui, leur tête, Col 2:7-10, comme l'étaient les saints au jour des apôtres. Et l'apôtre écrit aux Éphésiens qu'ils devaient croître en toutes choses en Christ, qui est la tête, de sorte que rien ne devait être entre eux et Christ, de qui tout le corps, bien joint et uni, reçoit l'accroissement par ce que chaque articulation fournit, selon l'action efficace mesurée en chacun, faisant croître le corps pour qu'il s'édifie lui-même dans l'amour. De sorte que les saints doivent parvenir à la mesure de la stature de la plénitude de Christ, leur tête, et ne pas être ballottés ça et là et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes, qui sont à l'affût pour tromper. Et c'est pourquoi l'apôtre exhorte l'Église à ne laisser personne les frustrer de leur récompense par une humilité volontaire et un culte rendu aux anges, s'immisçant dans des choses qu'ils n'avaient jamais vues, enflé d'une vaine arrogance d'un esprit charnel, ne s'attachant pas à la tête, Jésus-Christ qui tout le corps, par les jointures et les liens, reçoit la nourriture venant de Christ, leur tête, et étant unis ensemble, croit de l'accroissement de Dieu. Ainsi, déjà à cette époque, beaucoup voulaient les tromper et les détourner de leur tête vivante, Jésus-Christ, comme il y en a beaucoup maintenant depuis les jours des apôtres, qui ont établi un pape pour être tête. Mais l'apôtre a établi Christ comme tête de l'Église. Car l'apôtre avait assez de travail et de peine pour amener les gens à Christ, la tête, et eux devaient aller dans toutes les nations, prêcher l'évangile de Christ, afin que les gens croient en Christ, leur tête. Et lorsque l'apôtre dit aux Colossiens, « Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, des nouvelles lunes ou du sabbat, chose qui était l'ombre des biens à venir, mais le corps est à Christ, qui est la substance de toutes les ombres. » Ainsi vous pouvez voir quel genre de gens c'était que ceux qui ne s'attachaient pas à Christ, la tête, et qui voulaient frustrer les gens de la récompense qu'ils avaient de lui, leur tête. Et c'est pourquoi il dit, « Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, il ne devait pas toucher, goûter ni manier des ordonnances, doctrines ou commandements d'hommes, quand bien même ils auraient la plus grande apparence de culte volontaire, car ceux-là négligeaient le corps et ne s'attachaient pas à Christ, la tête. » Et par conséquent, ceux qui ne tiennent pas Christ pour chef de l'Église ont perdu leur récompense venant de lui, et ils négligent le corps, s'attachant aux doctrines, aux ordonnances et aux commandements des hommes, et aux rudiments du monde. Ainsi, dans les rudiments du monde ils sont vivants, et non morts avec Christ à l'égard des rudiments. De tels peuvent se faire des chefs à eux-mêmes pour leur corps, lorsqu'ils n'en ont pas un pour chef, comme le font les papistes, et quand le chef de leur Église meurt, ils peuvent en désigner un autre pour être chef. Et ils peuvent persécuter, emprisonner et tuer ceux qui ne le reconnaissent pas comme chef de leur Église, et alors mettre tout leur corps à persécuter aussi longtemps que seul leur chef se tient au-dessus de leur corps, comme l'attestent l'histoire et les chroniques. Oui, ils manifestent les œuvres sanglantes de ce chef, que le corps a faites et placées sur lui, et les fruits de ce corps sanglant et persécuteur. Jamais ce ne furent les œuvres du vrai chef, ni de la vraie Église, de persécuter quiconque reconnaissait Christ comme leur chef céleste et spirituel. Car Christ, le vrai chef de son Église, a dit qu'il n'était pas venu pour détruire la vie des hommes, mais pour les sauver, et il reprit ceux qui voulaient que la vie des hommes fût détruite, et leur dit, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. » Et de même il donna commandement à son Église, les vrais chrétiens dont il était le chef, de s'aimer les uns les autres et d'aimer leurs ennemis, et son Église. Ainsi il leur donna cette arme spirituelle, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et leur armure était leur lumière, et leur casque était le salut, et ils étaient chaussés de la préparation de l'Évangile de paix. Telles étaient donc les armes de la véritable Église chrétienne, qui tenait Christ pour son chef, mais l'Église apostate, dite chrétienne, c'est-à-dire sans chef, jusqu'à ce qu'elle s'en soit faite un, ses armes sont charnelles et non spirituelles. Et tous doivent venir à la vraie lumière, dont Christ éclaire quiconque vient au monde, laquelle est la vie en Christ, et y croire, s'ils viennent au vrai chef et sont greffés en lui. Car est celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un seul, et c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, disant, « J'annoncerai ton nom à mes frères, au milieu de l'assemblée je chanterai tes louanges. » Et 2:11-12. Et de même, ils doivent venir à la grâce et à la vérité, qui viennent par Jésus-Christ, dans leur cœur et leurs parties intérieures, s'ils veulent venir à Christ le chef. Et aussi ils doivent venir à l'Esprit de Dieu au-dedans, et à l'onction au-dedans, et laisser Christ demeurer dans leur cœur, et la parole de Dieu abattre, trancher et consumer ce qui les a séparés de Dieu et de Christ, ce dans quoi ils ont apostasié, s'ils veulent venir à Christ leur chef, qui les réconciliera avec Dieu. Et renoncez à fabriquer des confessions de foi, et regardez à Jésus, l'auteur et le consommateur de la vraie foi. Et renoncez à fabriquer des voies, et venez à Christ, la voie nouvelle et vivante, dans laquelle étaient les vrais chrétiens au jour des apôtres. Et cessez de vous faire des chefs, et venez à la lumière de Christ, qui tournera les gens vers Christ leur chef et leur donnera la connaissance de lui, leur chef. 2 Cor 4:6-22. Et renoncez à fabriquer des religions, et venez à la religion qui est pure et sans tache devant Dieu, qui les gardera des souillures du monde, et alors ils auront honte de cette doctrine imaginaire d'un purgatoire, pour les purifier ou les purger lorsqu'ils sont morts, et de tous les chefs, ressemblances et images qu'ils ont faits. Et renoncez à fabriquer des cultes, et venez au culte que Christ a établi il y a plus de 1600 ans, en esprit et en vérité. Et ainsi mettez de côté vos propres cultes avec toutes vos armes charnelles, par lesquelles vous avez persécuté dans cette nuit d'apostasie, et venez à prendre les armes spirituelles de Christ. Et renoncez à fabriquer des ministres dans les écoles et les collèges, par les arts naturels, les langues, et venez à Christ, qui est monté en haut et donne des dons aux hommes pour l'œuvre du ministère. Maintenant, concernant les médiateurs, vous, dans l'apostasie, qui attendez que Marie et d'autres saints soient pour vous des médiateurs auprès de Christ ou de Dieu, ce n'est pas la doctrine catholique, et cela ne vient pas de ceux qui tiennent Christ pour chef de l'Église, mais de ceux qui ont apostasié loin de lui. Car l'apôtre a dit, et 8:6 parlant de Christ, qu'il est le médiateur, et Christ est le médiateur du Nouveau Testament, et les saints étaient venus à Jésus le médiateur de la Nouvelle Alliance, et c'était l'Assemblée Générale de l'Église des premiers-nés inscrits dans les cieux, qui était venue à Dieu le juge de tous, et à l'Esprit des justes parvenu à la perfection, et, comme il a été dit plus haut, à Jésus le médiateur. Et 12:23-24 Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, afin que cela fût attesté en son temps. 1 Tim 2:3-6 Or il est clair qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus, qui est le chef de son Église, et quiconque a établi ou établi d'autres médiateurs entre Dieu et l'homme que l'homme Christ Jésus, est dans l'apostasie par rapport à la doctrine des apôtres, et suit ses propres doctrines, et non la doctrine apostolique, car il est l'unique médiateur entre Dieu et l'homme, l'unique Dieu éternel et vivant, créateur de toutes choses, et Christ Jésus par qui toutes choses ont été faites, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous les hommes. George Fox le dit ce mois, 1678. Postscriptum et il y a une seule foi, dont Christ est l'auteur et le consommateur, et tous doivent regarder à Jésus pour cette foi salvatrice, sainte, précieuse et divine, qui purifie le cœur et qui est la victoire, par laquelle ils ont accès à Dieu, et dans laquelle foi ils plaisent à Dieu. Et c'est là la foi catholique dont nous sommes. Christ est le chef de son Église, qui est rassemblée de tout le monde en son nom, et il est au milieu de un prophète, et un prêtre, et un berger, et un évêque, et un conseiller, et un roi pour régner dans les cœurs de son Église, et pour exercer ses offices dans son Église. Christ a établi un seul culte en esprit et en vérité, pour tous les enfants de la Nouvelle Alliance, qui sont Jérusalem, celle d'en haut, le culte de ses enfants. Car la Jérusalem extérieure était en Canaan, et au Temple, où les Juifs extérieurs rendaient un culte dans l'Ancienne Alliance, culte que Christ a aboli lorsqu'il a établi le culte de sa Nouvelle Alliance, en esprit et en vérité, pour Jérusalem qui est d'en haut et pour ses enfants. Il n'y a qu'une seule croix qui crucifie les gens au monde, laquelle croix de Christ est la puissance de Dieu. Et les apôtres, de leur temps, ont exalté Christ dans l'Église, l'intercesseur, pour intercéder pour les saints auprès de Dieu, lui qui a dit que Christ vit toujours pour intercéder pour son peuple, et qu'il peut les sauver parfaitement, ceux qui viennent à Dieu par lui. Si aucun des saints décédés ne servait de médiateur, ni n'intercédait, ni ne faisait intercession pour les saints vivants, bien que les saints dussent prié les uns pour les autres tant qu'ils vivaient sur la terre, et que les prières des saints aient une grande efficacité pendant qu'ils vivent, mais lorsqu'ils sont décédés et endormis, leur adresser des prières, soit pour être médiateur ou intercesseur, ou pour leur faire intercession, ce n'est ni la foi catholique ni la doctrine catholique, mais une invention comme de prier pour les morts afin de les délivrer. Car Christ est le fondement de la sainte maison de Dieu faite de pierres vivantes, et le rocher sur lequel sa maison est bâtie, rocher contre lequel les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir, car le fondement de Dieu demeure ferme. Un avertissement à tous ceux qui professent le christianisme, et aux autres, de se garder de la convoitise qui est idolâtrie. Par George Fox, tous les peuples qui professent Christ et le christianisme, ceci est un avertissement pour vous tous, prenez garde à la convoitise, car la convoitise était interdite tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, et par la loi de Dieu, et par Christ et ses apôtres. Car l'apôtre a dit, « La convoitise est idolâtrie ou l'avidité, étant aux gouvernants, prêtres, docteurs et aux peuples, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, cette pratique idolâtre était interdite. » Et Christ a dit, « C'est l'un de ces mots qui souillent l'homme, qui sortent de lui. » Et le Seigneur a dit dans sa loi et ses 10 commandements, « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. » Or, si cet esprit de convoitie est maintenu abaissé, alors l'idolâtre est maintenu abaissé, et cette idole hors du cœur. De même, le vol et le fait de dérober étaient interdits dans l'Ancienne Alliance, et ils le sont dans la Nouvelle, et tous doivent travailler à ce qui est bon. Pareillement, l'adultère était interdit dans l'Ancienne Alliance, et il l'est dans la Nouvelle, oui, et plus que l'adultère extérieur, car celui qui regarde une femme pour la convoiter, dans la Nouvelle Alliance, Christ a dit, a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et porter un faux témoignage contre son prochain était interdit dans l'Ancienne Alliance, et il l'est dans la Nouvelle, car tous doivent dire la vérité à leur prochain et ne pas mentir. Et le Seigneur a dit, dans l'Ancien Testament, tu ne tueras point. L'apôtre a dit, dans la Nouvelle Alliance, ils ne luttaient pas contre la chair et le sang, et leurs armes n'étaient pas charnelles, mais spirituelles, et Christ interdit la colère dans la Nouvelle Alliance. Et Samuel, qui était juge et prophète, qui jugeait Israël, 1 Sam 12:2-4. Samuel dit, « Je suis vieux et j'ai les cheveux gris, et j'ai marché devant vous depuis mon enfance jusqu'à ce jour, de qui ai-je pris le bœuf ou l'âne, ou qui ai-je trompé ou opprimé, ou de la main de qui ai-je reçu un pot de vin pour enfermer mes yeux ?» Et les enfants d'Israël répondirent et dirent, « Tu n'as trompé ni opprimé aucun de nous, et tu n'as rien reçu de la main d'aucun homme. Or voici un prophète, et un prêtre, et un juge, pur de cette idolâtrie de la convoitise, et n'a-t-il pas surpassé beaucoup de ceux qui se disent aujourd'hui prophètes et prêtres, juges et docteurs, et qui professent la nouvelle alliance ?» David a dit, « Incline mon cœur vers tes témoignages, et non vers la convoitise. » Psaume 119:36 Ainsi, si les cœurs de tous ceux qui professent le christianisme étaient inclinés vers le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie, cela tiendrait à baisser l'esprit terrestre de convoitise qui est idolâtrie. Comme Salomon l'a dit en Proverbe 28:16, « Celui qui est la convoitise prolongera ses jours. » Alors celui qui aime la convoitise, qui est idolâtrie, ne prolongera pas ses jours. Jérémie s'écria contre les Juifs dans l'Ancienne Alliance et dit, « Du plus grand au plus petit d'entre eux, le prophète et le prêtre, chacun d'eux s'adonnait à la convoitise et agissait faussement. » Jer 8:10 et Ésa 56:11-12. Pourtant ces prêtres et prophètes, du plus grand au plus petit d'entre eux, pouvaient faire profession de l'Ancienne Alliance. Que les prêtres, prophètes et le peuple, qui professent la nouvelle alliance, voient s'ils ne s'adonnent pas à cette idolâtrie de la convoitise, qui était haïe et interdite par Dieu et Christ, et par son peuple, les prophètes et les apôtres. Jérémie crie encore contre le Juif en Jer 22:17 et leur dit, « Tes yeux et ton cœur ne sont que pour ta convoitise, et pour répandre le sang innocent, et pour l'oppression, et pour la violence. » Or telle était la condition des Juifs dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'ils abandonnèrent Dieu, sa loi et son esprit. Maintenant que tous ceux qui se professent chrétiens, en qui Christ ne règne pas et qui ne sont pas guidés par l'Esprit de Dieu comme l'étaient les prophètes et les apôtres, s'examinent et s'éprouvent eux-mêmes pour voir si les fruits de leurs yeux et de leur cœur, et les fruits de l'Esprit qui étaient dans les Juifs, ne paraissent pas et ne se manifestent pas en eux, un esprit qui convoite la violence et l'oppression, et un esprit de convoitise et de persécution et de répandre le sang innocent, ce qui était interdit par Dieu et ses prophètes dans l'Ancienne Alliance. Mais quelle fut la fin des Juifs qui suivirent cet esprit mauvais et s'éloignèrent du Seigneur ? Ce qu'on appelle chrétiens pensent-ils, dans leur profession de la Nouvelle Alliance, qu'ils doivent avoir maintenant liberté dans ces choses mauvaises, qui étaient interdites au temps de l'Ancienne Loi et de l'Alliance? Non, non, elles sont d'autant plus interdites dans la Nouvelle. Le Seigneur dit à Ézéchiel que les Juifs viendraient s'asseoir devant lui comme le peuple du Seigneur, et qu'ils écouteraient ses paroles, mais ne les mettraient pas en pratique, et que de leur bouche ils montreraient beaucoup d'amour, mais que leur cœur allait après leur convoitise. Et 33:31 Or les prêtres et les professants de la chrétienté n'écouteront-ils pas et ne diront-ils pas les paroles de la Nouvelle Alliance et de l'Évangile, et ne sembleront-ils pas montrer beaucoup de zèle et d'amour pour les paroles du Nouveau Testament, mais ils ne les feront ni ne les pratiqueront, car leur cœur et leurs yeux vont après leur convoitise qui est idolâtrie. Car n'est-ce pas vous, qui professez en parole la Nouvelle Alliance, qui avez fait comme ceux qui professaient en parole l'Ancienne, ayant convoité des biens, des champs, des maisons, et pris par violence, opprimé un homme dans son héritage, conçu l'iniquité, et commis le mal sur vos lits, et au point du jour l'avoir pratiqué, parce que vous aviez la puissance en vos mains. N'a-t-on pas prononcé malheur sur ceux-là, qui professaient l'Ancienne Alliance et pourtant marchaient contrairement à elle, et bien plus encore sur tout ce qu'on trouve aujourd'hui dans ces pratiques, tout en professant la nouvelle, Michée 2. Habacuc crie, « Malheur à celui qui convoite une convoitise mauvaise pour sa maison, afin de placer son nid en haut, pour être délivré du pouvoir du mal, etc. » Rab 2:9-11 Et il leur dit, « La pierre criera du mur, et la poutre du bois lui répondra contre eux. » Donc que de telles personnes convoiteuses, qui professent le christianisme, écoutent et entendent, si les pierres même du mur ne crient-elles pas contre vous, et la poutre du bois ne répond-elle pas ? Christ a dit en Marc 7:21-23, « Ce qui sort de l'homme de l'intérieur de son cœur souille l'homme, à savoir, les mauvaises pensées, l'adultère, la fornication, le meurtre, le vol, la convoitise, la méchanceté, la tromperie, les blasphèmes, l'orgueil, la folie et le mauvais œil. Or ce sont là les maux qui souillent les hommes, que le diable, le serpent qui est hors de la vérité a produit dans le cœur de l'homme, tant en Adam et Ève qu'en les Juifs, et les chrétiens qui s'éloignent de Dieu et désobéissent à sa voix et à son commandement. Car ni Dieu ni Christ n'ont produit aucune de ces choses mauvaises en l'homme au commencement, ni depuis, lui qui est l'auteur de tout bien. C'est pourquoi ces choses mauvaises doivent être purgées de l'homme par le sang et le baptême de Christ, et par la mortification et la circoncision de l'Esprit de Dieu. Et Christ leur dit à savoir, aux Juifs, prenez garde et méfiez-vous de la convoitise, car la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des choses qu'il possède. Luc 12:15 Aussi tout ce qu'on appelle chrétien, et tous les gens, voulaient considérer cette doctrine bénie de Christ, l'homme céleste, et s'ils pouvaient venir à comprendre et à connaître en quoi consiste leur vie la vie de Dieu, Alors il prendrait garde et se méfierait de la convoitise qui est idolâtrie. L'apôtre Paul, qui avait le soin des églises, écrit aux Corinthiens de ne pas fréquenter quelqu'un qui est appelé frère, s'il est fornicateur ou convoiteux ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou extorqueur avec un tel, il ne devait même pas manger un corps saint. 11. Ceux qui professaient le christianisme et suivaient de telles pratiques, les saints ne devaient ni manger avec ni les fréquenter, car ils faisaient honte à leur profession de christianisme. Ainsi ici les apôtres et les saints, la vraie Église, avaient un jugement qui leur avait été donné, et ils excluaient les idolâtres convoiteux, les fornicateurs, les ivrognes, les outrageux. D'avoir quelque communion avec les saints, la vraie Église, pas même de manger avec eux, ni de les fréquenter dans cet esprit, car il a dit, « Ni les fornicateurs, ni les voleurs, ni les ivrognes, ni les idolâtres convoiteux, les outrageux, ni les extorqueurs. » n'hériteront du royaume de Dieu. L'apôtre dit aux Corinthiens que, tels étaient quelques-uns d'entre eux, mais eux les vrais chrétiens avaient été lavés, sanctifiés et justifiés de ces choses péchées, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Ainsi ils avaient été lavés de leur fornication, convoitise, idolâtrie, ivrognerie, outrage et extorsion, et justifiés au nom de Jésus et par l'Esprit de Dieu. Ainsi l'apôtre ici ne parle pas des fornicateurs, des idolâtres convoiteux et des extorqueurs du monde, qui étaient en dehors de l'Église ne prétendant pas être chrétiens, car Dieu juge cela. Mais les saints, les apôtres et la vraie Église devaient juger ceux qui pratiquaient de telles choses au sein de l'Église, montrant que la vraie Église des chrétiens avait un pouvoir, et ne pas fréquenter ni manger avec ceux qui, professant Christ, vivaient dans de telles pratiques, sachant que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu, ni les ivrognes, ni les fornicateurs, ni les voleurs, ni les outrageux, ni les extorqueurs, ni les idolâtres convoiteux. Ceux qui vivaient dans ces mondes n'étaient pas en état d'hériter du royaume de Dieu, car ils étaient sous. Ainsi, si les saints fréquentaient ou mangeaient avec de telles personnes non lavées, non sanctifiées, non justifiées, ou avaient communion avec elles, ils prenaient les membres de Christ et les joignaient à une prostituée. Car celui qui est joint à une prostituée est un seul corps, car deux, dit-il, seront une seule chair. Et donc, les corps des saints sont membres de Christ, Dieu défende qu'ils soient joints à des prostituées, ou qu'ils en fassent des membres d'une prostituée. Celui qui est joint au Seigneur est un seul esprit. Et les corps des saints sont les temples du Saint-Esprit, qui procèdent de Dieu et de Christ, et ayant été achetés à prix le sang de Christ et lavés, sanctifiés et justifiés au nom de Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu, ils doivent glorifier Dieu dans leur corps, âme et esprit, qui appartiennent à Dieu, et qu'il leur a donné pour le glorifier, gloire à son nom à jamais. Ainsi, tout ce vieux levain de fornication, d'adultère, de vol, de convoitise, d'idolâtrie, d'ivrognerie, de débauche, d'extorsion, et toute injustice, envie, malice et méchanceté doit être purgé que le Dieu de ce monde, le serpent, a fait agir, afin qu'il soit une pâte nouvelle et qu'il célèbre la fête des pains sans levain de sincérité et de vérité. Car Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous, comme vous pouvez le voir en 1 Cor 5:7, la pratique de l'Église au jour des apôtres, et qui devrait l'être maintenant. De plus, l'apôtre dit à l'Église de Corinthe, en 2 Cor 6:14-17, et s'explique avec un grand soin pour l'Église, « Ils ne doivent pas se mettre sous un joug disparate avec les incrédules. Ainsi, c'est un joug inégal que d'atteler ensemble croyants et incrédules, et il en donne la raison, disant, « Quelle communion y a-t-il entre la justice et l'injustice ? Et quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le croyant avec l'infidèle ? Et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Or ceux qui vont à l'encontre de la doctrine de l'apôtre en ces choses ont perdu leur sens, leur vue et leurs sentiments, car ici il n'y a ni communion, ni unité, ni accord, ici il n'y a ni entente, ni part avec les susnommés qui sont hors de la vérité, mais ils se mettent sous un joug inégal avec ceux qui sont des temples du Dieu vivant, eux qui s'y joignent, eux en qui Dieu demeure et marche, et il est leur Dieu, et ils sont son peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous recevrai, et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit Dieu Tout-Puissant. Et ici vous pouvez voir ce que les saints, les fils et les filles de Dieu, doivent abandonner, et ne pas toucher, ni conclure d'accord avec, ni se mettre sous le joug, mais dont ils doivent se séparer, afin que le Seigneur Dieu Tout-Puissant les reçoive. Astérisque, il est évident que vous ne devez pas non plus avoir communion avec des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui continuent à pratiquer le péché sans aucune honte, certaines allant jusqu'à se vanter de leur licence à pécher sans aucune sanction de la part de Dieu. De nouveau, l'apôtre écrit aux Éphésiens 4:25-29 qu'ils doivent renoncer aux mensonges et que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres, et que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille, œuvrant de ses mains à ce qui est bon. Et qu'aucune parole corrompue ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne, tendant à l'édification, afin de communiquer la grâce à ceux qui l'entendent, et toute impureté, les discours insensés et les plaisanteries, qui n'étaient pas convenables, devaient être rejetés. et les saints, l'Église de Christ, ne devaient avoir aucune communion avec de telles choses, les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt les reprendre. Et la fornication, et toute impureté, et la convoitise qu'on n'en fasse pas même mention parmi vous, comme il convient à des saints. Car vous savez ceci, à savoir les saints, l'Église de Christ, qu'aucun fornicateur, ni personne impure, ni homme convoiteux, qui est un idolâtre noté, convoiteux, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ici, l'Église de Christ avait sa connaissance et son jugement pour exclure ces choses qui empêchaient les gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Et maintenant notez, si un homme convoiteux est un idolâtre, comme l'a dit l'apôtre, alors tous les hommes convoiteux sont des idolâtres et n'hériteront pas du royaume de Dieu. Or que tous ceux qu'on appelle prêtres, docteurs, ministres et prophètes dans la chrétienté voient si leurs fruits ne les déclarent pas convoiteux, et ainsi idolâtres, eux qui prêchent Christ et les apôtres et semblent avoir du zèle pour leurs paroles, mais combien d'entre eux prêcheront sans dîmes et sans salaire? Et si les gens ne le leur donnent pas, alors ils pillent leurs biens et les jettent en prison, oui jusqu'à la mort comme beaucoup l'ont été, parce qu'ils ne voulaient pas soutenir et nourrir en eux cet esprit idolâtre de convoitise, alors que l'apôtre commande à l'Église de ne pas même avoir communion, ni compagnie, ni manger avec une personne convoiteuse qui est un idolâtre. Or, si les saints, la vraie Église de Christ, ne doivent pas manger ni fréquenter de telles personnes, comment devraient-ils les entendre, ou être contraints ou forcés de les entendre? Sachant que Christ a dit à ses ministres, qu'il a envoyés, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, et qu'ils ne devaient ni se procurer de l'argent ni de l'or, ni bourse ni sac, mais s'enquérir de qui était digne de leur message, et manger ce qui leur serait présenté, et pour ceux qui étaient indignes, qui ne les recevraient pas de leur message, ils devaient secouer la poussière de leurs pieds, ce qui serait un témoignage contre eux au jour du jugement. » Les apôtres n'ont pas jeté en prison ces personnes indignes, qui ne voulaient pas les recevoir ni mettre de la nourriture devant eux, comme certains de vos ministres le font aux gens de Dieu, parce qu'ils ne peuvent pas soutenir votre esprit convoiteux et idolâtre en vous donnant des dîmes et des salaires. Or vous tous qui ne prêcherez pas les paroles de Christ et des apôtres, ni ne prierez parmi les gens, ni ne leur donnerez des psaumes à chanter, ni ne chanterez parmi eux, ni ne baptiserez les enfants comme vous dites, ou ne les aspergerez sans les dixièmes de l'augmentation du travail des gens les dîmes, et sans les dixièmes de l'accroissement de leur bétail et de leurs biens, et qui avez fixé des gages annuels pour ces choses, n'êtes-vous pas des idolâtres convoiteux? Oui, et vous jetez des gens en prison, pillez leurs biens et les excommuniez, vous pour qui vous n'accomplissez aucune de ces œuvres, eux non plus ne vous ont pas mis au travail, ni ne vous ont engagé pour faire aucune de ces choses pour eux, car la plupart des gens, partout, ne vous engagent-ils pas en général et ne s'accordent-ils pas avec vous pourtant parents? Ou ne vous faites-vous pas des amis parmi les grands, pour vous obtenir de grâce prébende revenus, au lieu de vous enquérir où sont les gens dignes, vos prêtres ne s'enquièrent-ils pas plutôt, où sont les plus grands bénéfices et le plus de dîmes et de revenus? Puis, une fois installés, ne pillez-vous pas les biens et ne jetez-vous pas en prison ceux qui ne vous ont jamais engagés ni ne vous entendent, n'est-ce pas contraire au commandement général de Christ à ses disciples, tant aux 12 qu'aux 70, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, etc. » Ainsi n'est-il pas manifeste ici que vous êtes les idolâtres convoiteux dont parle l'apôtre, qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu? Car Pierre, dans sa seconde épître générale, 2 Pie 2:2-3, parle des faux prophètes et des faux docteurs, et de la manière dont beaucoup suivraient leur voie pernicieuse, à cause desquelles la voie de la vérité serait calomniée, cette vérité que les apôtres prêchaient gratuitement, comme ils avaient reçu gratuitement, selon le commandement de Christ. Et ces faux prophètes et docteurs, par convoitise, feraient trafic des gens avec des paroles feintes. Car combien de fois les docteurs ont-ils changé de place et de voie? L'apôtre compare de tels gens au monde ancien, à Sodome, et aux anges déchus qui n'ont pas gardé leur demeure. Et donc que les docteurs de la chrétienté, qui jettent en prison et pillent les biens des gens pour leur ventre, s'examinent et voient s'ils ne sont pas ces hommes dont l'apôtre a fait l'accusation. De même, l'apôtre écrit à Timothée, en 2 Tim 3, au sujet de tels gens convoiteux, orgueilleux, vantards, faux accusateurs, violents, méprisant les gens de bien, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, qui était l'apparence du christianisme, mais en reniant la puissance de tels, les saints, la vraie Église devait se détourner. Car il les comparait à Jannès et Jambrès, qui résistèrent à Moïse, hommes à l'esprit corrompu, qui résistaient à la vérité réprouvée en ce qui concerne la vraie foi. Cela menait captifs des gens chargés de péché, entraînés par diverses convoitises, apprenant toujours sans jamais pouvoir parvenir à la connaissance de la vérité. Et comment le pourraient-ils, étant eux-mêmes privés de cette vérité, et hommes à l'esprit corrompu, amener quiconque à la vérité et à la foi, puisqu'ils sont eux-mêmes hors de la vraie foi, et disent aux gens qu'ils doivent? Mais les apôtres exhortaient les saints à marcher dans la lumière, et le sang de Jésus-Christ devait les purifier de tout péché. L'apôtre dit à l'Église qu'ils étaient lavés, purifiés, sanctifiés et justifiés, etc. et cela pendant qu'il était sur la terre. Et il dit aux Éphésiens, « Les saints, vous qui étiez autrefois ténèbres, vous êtes maintenant lumière dans le Seigneur. » Et l'apôtre écrit à Timothée, 1 Tim 6, 8-11, « Ayant la nourriture et le vêtement, contentons-nous-en, et la piété avec le contentement est un grand gain, mais ceux qui veulent être riches tombent dans les tentations et les pièges, et dans beaucoup de convoitises insensées et nuisibles, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et certains, en le convoitant, se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. C'est là le chemin de l'homme de Dieu, fuir la convoitise et l'amour de l'argent, et ceux qui font du gain leur piété, car de tels gens sont privés de la vérité. Et cela devrait être la pratique de tous les vrais chrétiens aujourd'hui. Les gens du monde, avec les prêtres et docteurs convoiteux, et d'autres, ne courent-ils pas après les richesses et l'argent, au lieu de les fuir? Et après le gain, supposant que ce soit la piété, n'est-ce pas un signe que de tels se sont égarés de la vraie foi et sont tombés dans des convoitises nuisibles, qui les plongent dans la ruine et la perdition, en tombant dans la tentation et le piège, en convoitant les richesses et l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux? La racine de ce mal ne s'est-elle pas manifestée chez les docteurs du monde et chez d'autres gens? Les prêtres et docteurs en détruisant des gens pour leur ventre, et le peuple en convoitant et en empiétant sur les biens d'autrui, et ainsi détruisant les leurs et ceux des autres aussi, les docteurs et les autres montrant qu'ils se sont égarés de la foi dont Christ est l'auteur et le consommateur, lui qui a dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, et prenez garde à la convoitise. » Car l'apôtre a dit « Qu'un évêque ne doit pas être violent, ni avide de gains honteux, ni crêleur, ni convoiteux, mais qu'il doit tenir ferme la parole fidèle et être irréprochable, et de tels évêques et anciens, docteurs et diacres, Timothée et Tite devaient les ordonner, comme vous pouvez le voir en 1 Tim 3, 2 et Tite 1, 6, 9. Et ils devaient garder le mystère de la foi dans une conscience pure, et dès lors, comment des évêques et docteurs, anciens ou diacres, peuvent-ils être les successeurs de ce que les apôtres, Timothée et Tite ont ordonné, s'ils sont violents, persécuteurs, convoiteux et avides de gains honteux, oui, et jettent en prison des gens sur lesquels ils ne veillent pas, ni n'enseignent, ni ne prêchent? De tels ne se sont-ils pas égarés de la foi, ces bêtes mauvaises et ces ventres paresseux, qui supposent que le gain est la piété, qui ne servent pas le Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre, ce que l'apôtre a dit à Tite de reprendre sévèrement. Vous pouvez maintenant voir que ceux qui convoitaient d'être riches, qui étaient persécuteurs et violents, et avides de gains honteux, Timothée et Tite ne devaient pas les ordonner évêques et docteurs, anciens et diacres, car de tels s'étaient égarés de la foi, alors ils n'étaient pas en état de garder le mystère de la foi dans une conscience pure, dont Christ est l'auteur et le consommateur, lui qui a dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Car l'apôtre, en Actes 20, 26-34, a dit qu'il était pur du sang de tous les hommes, il prit l'Église à témoin qu'il n'avait convoité l'argent, l'or ou les vêtements de personne, et dit que l'Église savait elle-même que ses mains avaient pourvu à ses besoins et à ceux qui étaient avec lui. Or voici un ministre de Christ clair et gratuit, que les évêques, prêtres et docteurs, etc. de la chrétienté s'éprouvent eux-mêmes et leurs pratiques par l'Écriture, et par l'exemple de l'apôtre, et par le commandement de Christ qui a dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Pouvez-vous dire que vous n'avez convoité l'argent, l'or ou les vêtements de personne, ni de votre propre peuple, ni d'autres à qui vous n'avez pas prêché? Pouvez-vous dire que vous êtes pur du sang de tous les hommes, comme l'a dit l'apôtre, et prendre les chrétiens à témoin? Si vous dites que oui, les prisons ne témoigneront-elles pas contre vous, ainsi que les tribunaux, et vos propres cœurs et consciences aussi ne porteront-ils pas témoignage contre vous? Et combien ont été persécutés et emprisonnés par vous jusqu'à la mort, pour ne pas vous avoir donné de l'argent et des dîmes, pour qui vous ne travaillez pas, quelle persécution et quel traînement devant les tribunaux avez-vous fait? Vous ne pouvez pas prendre les chrétiens à témoin, que vous êtes purs du sang de tous les hommes, que vous ne convoitez l'argent, l'or ou les vêtements de personne, et que vous travaillez de vos mains pour vos propres besoins et ceux des autres, et que vous n'êtes pas avide de gains honteux, ni violents et persécuteurs, ni de ceux qui convoitent l'argent et les richesses de ce monde, et que vous donnez gratuitement, comme Christ le commande, montrant que vous n'avez pas reçu gratuitement de lui, mais que vous vous êtes égarés de la foi de Christ par laquelle vivaient les apôtres. Car l'apôtre a dit à l'Église, « Que votre conduite soit sans convoitise, et contentez-vous de ce que vous avez. » Et le Seigneur a dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Et 13, 5 et Jos 1, 5. Ainsi cela devrait être la conduite de tous ceux qui professent Christ Jésus, et alors ils convoiteront les meilleurs dons, et non les choses terrestres, et poursuivront l'amour et la charité. Et l'apôtre a dit, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis aussi de Christ. » Il est donc clair que l'Église des vrais chrétiens ne doit suivre aucun docteur, sinon dans la mesure où ils suivent Christ dans sa vie, sa foi, sa pratique et sa doctrine. Et s'ils font profession de la forme de la piété sans la puissance, l'esprit et la vérité, il fallait se détourner d'eux et ne pas les suivre, mais comme chacun a reçu le Christ Jésus, qu'il marche en lui avec humilité. George Fox le 5 mois, 1679, fin du volume V, livre de doctrine 6, suite retour à l'index de doctrine. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, laquelle conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.